RMC. L'After JO.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est After JO jusqu'à 1h du matin en direct du Club France à la Grande Halle de la Villette comme tous les soirs pendant les Jeux. Évidemment, nous sommes là pour 2 heures de débriefing de la journée olympique avec Marion Bartoli qui est avec moi ce soir. Salut Marion.
Et oui Gilbert, salut, bonjour à tous, bonsoir même.
Au programme Marion, l'analyse des compètes du jour, les médaillés, on va parler athlée, handball, volley, basket, cyclisme, entre autres avec notre Dream Team plus l'actu du jour. Je vous rappelle les médaillés de ce samedi, belle journée pour l'équipe de France avec une médaille d'or au taekwondo pour Althea Laurin il y a quelques minutes, médaille d'argent au hand féminin, médaille d'or au volley, on y reviendra tout à l'heure avec les volleyeurs qui seront avec nous, médaille d'argent au basket, également médaille d'argent à l'athlée, et oui, tout arrive pour Sirena Sambamayela au 100 mètres et puis médaille d'argent au breaking pour B-Boy Dalidan. Le 32-16 est ouvert, on va tout de suite à Bercy. Pierre Dorian est toujours dans la tribune et Stéphane Brun est dans la zone d'interview. Stéphane, évidemment, dès qu'il y a quelqu'un avec toi, tu interviens, tu es le bienvenu, on t'attend.
Oui Gilbert, les Américains ont sorti les drapeaux et célèbrent. On s'entale et les Français se font des bisous, il y a quelques larmes, c'est le dernier match.
Je rêve où j'ai vu Wembanyama pleurer là.
Exactement, oui, c'est l'image super qu'il faut retenir parce que là la tension est retombée. Ça s'est calmé hein, clairement. Les Français, franchement, je les trouve pas très touchés. En revanche, il y en a un qui est en larmes, c'est Victor Wembanyama dans sa serviette. C'est le seul dans cette équipe de France.
C'est la première fois de sa vie qu'il vit des émotions comme ça, Pierrot.
Non, déjà. Mais après, la raison, je ne la connais pas, mais lui, c'est le seul dans cette équipe de France qui a cette attitude. Il est vraiment touché.
Bah parce que il n'a pas de recul nécessaire de savoir l'importance qu'est une médaille d'argent. Il avait peut-être envie de gagner et de marquer l'histoire d'entrée de jeu. Maintenant,
il a fait un gros match.
L'équipe de France, l'avenir de l'équipe de France, c'est Victor Wembanyama. Cette équipe, elle va lui appartenir. Mais quand il réalisera que pour sa première grande compétition, il est médaillé d'argent et aux Jeux Olympiques, il s'en rendra compte.
Ouais, dis-leur d'arrêter Michael Jackson, là, remettez-nous le Johnny. C'est la France ici, monsieur Dorian.
Mais est-ce que Steve, tu vas prendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas?
Pardon ?
Tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand tu vas passer ou pas ?
Ouais, alors, très sincèrement, l'attitude des Américains, certains joueurs américains ce soir, très moyen.
Ah ouais ?
Très moyen, ouais.
Chambreuse, notamment Curry.
Chambreur parle mal, accepte pas qu'on défende sur cette Curry est irréprochable. Mais LeBron James, Tyrese Haliburton, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs très moyens.
Ah ouais, Wembanyama, franchement. Il est inconsolable, hein. Incroyable. Inconsolable.
Mais c'est un garçon de 20 ans qui vient de connaître sa première tristesse.
Non, mais parce que l'écart de 11 points, il est fait par Steph Curry dans la dernière minute 30. Hein. Parce qu'on a deux lancers pour revenir à moins 4, on y a cru en fait. Et je pense que Victor y a cru. Et peut-être que cette déception, elle vient de là aussi, parce qu'on a été mené tout le match, soit. Mais à la fin, dans les 2-3 dernières minutes, on est revenu leur coller aux fesses. Et franchement, je comprendrais que cette équipe de France-là ait vu leur Olympique. Donc peut-être que la déception de Victor
Pierrot,
vient de là.
Quand t'as Steph Curry qui t'enfile les paniers à 3 points comme il a fait, c'est quand même dur, quoi. C'est dur d'arriver à lutter là-dessus. Enfin, ils sont juste inclinés sur une équipe plus forte, c'est tout.
Exactement. Mais dans la mesure où il y a eu ce petit espoir en fin de match, peut-être que la déception, elle est insupportable.
Qui est la dame dans les bras de... C'est sa mère
Je vois pas d'ici, là. Je suis désolé parce que je suis pas...
Oui, c'est bien la mère de Wembanyama qui est venue le consoler.
Ouais. Il y avait du bon monde au bord du parquet. Hein. Côté français, il y avait Tony Parker, Thierry Henry, Antoine Dupont,
Omar Sy, exactement.
Stephen Brun.
Ouais, côté des Américains, il y avait du monde aussi. Hein. C'est venu en force.
Tom Cruise était là parce qu'il était au foot, hein, Tom Cruise cet après-midi.
Non,
au Parc des Princes.
Je l'ai pas vu au bord.
Et il préférait aller au foot.
Il y avait Shaqiri, il y avait Scottie Pippen, il y avait Carmelo Anthony.
C'est qui Shaqiri?
Shaqiri Richardson, oh my god.
On peut compléter la liste.
Fais un effort, s'il te plaît.
J'aimerais compléter la liste par deux VIP. Stephen, Walid Acherchour et Kevin Diaz, s'il vous plaît. Et ça, c'est quand même d'un autre niveau, si je peux me permettre.
Alors, les Français sont retournés au vestiaire. Donc je pense pas que tu vas les voir tout de suite, Steve.
Ça s'en collé qu'avec la télé.
C'est la boîte de nuit au Club France. On est en train de fêter la médaille de Benjamin Thomas.
Steve Curry,
peut-être qu'il y a la remise des médailles avec le podium, Pierrot.
Oui, mais tu peux. Je vais te dire, il n'y en a que trois en zone d'interview, c'est Collet, Steve Kerr et Curry.
Prenons le temps du coup d'analyser un peu le match, le 32-16 est ouvert. Steve, t'as vraiment l'impression que la France est passée à côté d'un exploit là, ce soir?
Écoute, est-ce que le si près si loin peut convenir à cette rencontre-là?
Oui,
parce que alors on peut être meilleur, il y a des blessures qu'on n'est pas irréprochable sur des ballons perdus, l'adresse à 3 points à 30%, et j'avais dit qu'il fallait être à 39-40% pour espérer gagner ce match-là, ça n'a pas été le cas. Maintenant on a fait beaucoup de choses exceptionnelles dans cette rencontre en termes d'intensité. Vincent Collet, les choix tactiques, les alternances de défense, les match-up relancés, Nando De Colo qui était disparu, porté disparu au bout du banc et qui a été exceptionnel sur cette rencontre-là. Après, à un moment donné, il faut aussi savoir accepter le talent de l'adversaire, oui. Et de Steph Curry et de Kevin Durant qui ont mis des tirs sensationnels. Je sais pas si j'attends de les avoir en zone mixte, je sais pas s'il va y avoir beaucoup de regrets. J'ai hâte de parler basket avec Vincent Collet, mais à un moment donné, tu peux juste t'incliner sur le talent et
Steve,
la force de cette équipe.
Est-ce que tu penses pas que justement ce genre de match pour Vincent Collet aussi, ça démontre sa capacité à gérer cette équipe et avoir une tactique finalement qui marche, qui a été énormément décriée sur son système de jeu. On disait qu'il joue un système de jeu beaucoup trop à l'ancienne. Est-ce que ce genre de match peut justement au contraire entre guillemets le laisser en poste et montrer qu'il a la capacité à gérer cette équipe de France?
Ouais, alors ça fait quand même 15 ans hein, Vincent qu'il est là, sa réputation de tacticien elle est déjà faite. Alors oui, la compétition était mal partie et c'est toujours la cible facile, l'entraîneur c'est facile de lui tomber dessus. Maintenant il a prouvé qu'il était capable de s'adapter et de trouver des bons ajustements. Après, la question va être posée, je pense qu'on est quand même sur c'était peut-être aussi également le dernier match en tant que sélectionneur de Vincent Collet. J'essaierai de lui poser la question, même si c'est pas si c'est le moment adéquat pour parler de ça, mais il y a de fortes chances qu'on parte sur un renouvellement de génération. Nando De Colo, Nicolas Batum vont arrêter et également peut-être Vincent Collet avec.
Bon, Pierrot, ton avis à toi là sur le si non, près, écoute, si loin, moi, si proche, comme disait.
Moi, je trouve que l'équipe de France a fait le match qu'il fallait, c'est-à-dire être au contact dans les trois dernières minutes. Mais ensuite, eh ben, c'est simple, hein, il y a une légende en face.
Ça s'est joué sur les paniers à trois points, en fait,
mais
c'est
oui,
ça.
Mais oui, bien mais sûr. En fait, c'était face à Mohamed Ali dans le dernier round et tu te prends un direct et ouais. Tu es KO, terminé. Pour moi, il n'y a aucun regret. On a fait un grand match. Il y a certains joueurs qui ont été exceptionnels. Du côté de l'équipe de France, il y a Garchoni Abouzélé, Nando De Colo, Stephen vient de le dire, mais en face tu as un mec qui a fait ça toute sa vie. C'est mec des trois points que personne d'autre n'est capable de mettre. Le dernier qu'il met, il est défendu à merveille. C'est-à-dire qu'il a deux joueurs sur lui. On l'oblige à prendre une trajectoire qui n'existe pas, une parabole qui est quasiment un cercle en fait. Et ça tombe dedans et ça fait ficelle, ça touche même pas l'arceau. Il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à s'incliner. Et c'est Steph Curry qui a gagné cette finale. Enfin, qui a gagné le Money Time, c'est Steph Curry. Nous, on a fait notre match. Et bien, s'il ne les avait pas rentrés, ces 3 points dans les dernières minutes, peut-être qu'on aurait une autre chance. Mais moi, je vais te dire, aucun regret avec cette médaille d'argent qui est absolument magnifique.
Tu sais, comme le disait Steve aussi, ils sont venus finalement avec la Redemption Team, un petit peu comme avec l'histoire de Athènes où c'était la honte absolue qu'ils perdent. Et puis, ils sont arrivés à Beijing en voulant écraser tout le monde. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'ils sont arrivés sur cette finale avec cette attitude-là.
Extrêmement motivé.
Je sais pas si du coup ça entraînait effectivement des comportements limites. Bon, après LeBron James, quand il se comporte en NBA, à mon avis, doit se comporter à peu près aussi de la même façon. Mais il y avait quand même une motivation différente, même par rapport au match contre la Serbie. Hein.
Ouais, il y avait une motivation extrême. Et quand ces mecs-là sont motivés, il faut un coup de magie pour gagner en fait. Je pense pas qu'il y ait un scénario dans lequel on gagne ce match en vérité.
Il faut jouer à la perfection. Là, on fait 10 sur 17 de lancer France, 59%. Il faut au moins être à 90 en laisser en route. On perd des ballons et on est à 30% à 3 points. C'est pas suffisant quand on est équipe comme ça. Alors, on savait qu'on avait des carences et on les a encore vues ce soir. Mais en termes de comportement, d'attitude, on n'a rien lâché. Moi, j'ai rien à reprocher à ces mecs-là et j'ai envie de leur dire bravo parce que cette finale, c'est une. Elle va rester dans l'histoire hein, parce que ce qu'a fait Steph Curry sur les 3 dernières minutes, on va se rappeler très très longtemps.
Hein. Ça, c'est clair.
Messieurs, on a Jérôme au 32-16 avec nous dans l'After JO. Salut Jérôme.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bon, tu t'es régalé, Jérôme, quand même, malgré le score final.
Mais messieurs, mais quelle finale, mais quelle fierté d'être français. Vous vous rendez compte qu'on a réduit les États-Unis à simplement une équipe de shooters. On les a éteints dans tous les autres domaines. Ils mettent 60 points sur des tirs à 3 points. Il y a Stephen Curry qu'on ne peut pas tenir parce que c'est un joueur intenable, même en défendant lui, c'est pas possible. Mais ce qu'on a fait, c'est énorme, on ne se rend pas compte. Les États-Unis n'ont jamais autant donné pour gagner, même contre la Serbie. Ils étaient tranquilles en première mi-temps. Là, ils n'ont rien fait, ils ont été bousculés. Moi, je retiens le poster que Yabouzélé, il met sur les Brandines, qui est monstrueux. Wembanyama, il a répondu à tout le monde ce soir. Nando De Colo, certainement son dernier match. Vous vous rendez compte le match qu'il a fait? Ça fait deux mois qu'il est sur le banc. Il fait un match sensationnel. Ils ont tous été au niveau. On a répondu de la plus belle des manières. Après, Stephen Curry, on peut rien faire. Il fait 8 sur 12 ce soir. Il fait 9 sur 14 vendredi contre la Serbie. Moi, je suis très, très fier d'eux. On les a fait chier tout le long. On a même eu l'honneur de gagner le troisième carton. Et ça, c'était important. Après, voilà, les États-Unis, ils ont rien fait à part tirer à 3 points. Dedans, on les a éteints. Et la France, c'est quoi? C'est la défense. Et si cette génération-là, elle continue comme ça, les gars, moi, je vous dis, en 2028, il y aura peut-être plus Stephen Curry, il y aura peut-être plus ces joueurs-là de folie. On doit continuer comme ça. Et je dis qu'en 2028, on aura la médaille d'or olympique. C'est pas possible autrement.
Ah ouais, je suis à Los Angeles.
Après, ils sortent toujours des générations.
Au Staples Center.
Calme.
Mais bien sûr.
Pas trop, Jérôme. Quand même.
J'aime beaucoup ton enthousiasme. Après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est un tournoi olympique très très relevé. Donc la médaille d'argent a énormément de valeur. Ça veut dire aussi que c'est une performance qui va être difficile à reproduire. Donc dans 4 ans on espère, parce que Wembanyama, dans 4 ans, ce sera peut-être Kevin Durant. Hein. C'est son
destin. Va s'accoler Harry. Va s'accoler.
Vas-y Stephen. Voilà, Stephen est dans la zone d'interview, hein, donc il attend.
Les sélectionneurs de l'équipe de France. Allez, Vincent, déjà félicitations parce que cette finale, elle est belle, elle était belle à regarder. Est-ce que, j'imagine de la déception, mais ce que fait Stephen Curry sur les 3 dernières minutes, c'est magistral.
Exactement, voilà. Oui, de la déception, toi, c'est bien que tu dis ça. Tout le monde m'a demandé pour l'instant, je suis pas content d'avoir la médaille d'argent. On l'avait jeudi soir déjà. Donc, on est déçu d'avoir perdu parce qu'on rêvait vraiment de faire ce coup énorme. On savait que ça serait dur. On savait que les Américains seraient davantage prêts que jeudi au début de la demi-finale. Voilà, on a vu tout de suite leur engagement était pas le même. Et nous, on a loupé des petites choses que tu peux pas te permettre de louper si tu veux battre les Américains. Notre pourcentage au lancer, plusieurs joueurs qui font 0 sur 2, un ou deux tirs ouverts qu'on doit mettre, une ou deux balles gâchées en contre-attaque sans raison, c'est suffisant malheureusement. Alors que quand on est revenu à 3 points quand même, à 3 minutes de la fin, ces actions-là c'était avant. Donc si on les avait réussies, on aurait vraiment pu les rattraper, voire passer devant. Et on ne sait pas si ça aurait été la même chose. Mais en tout cas, voilà, je suis fier de mes joueurs qui ont été à nouveau remarquables dans l'investissement, dans la détermination et même dans le basket. Voilà.
Ouais, et toi, en termes de coaching, tu as fait énormément de choses ce soir. Gershon Yabusele sur poste 3. Tu relances Nando De Colo qui fait une finale. J'ai envie de lui dire
grande finale.
J'ai envie de lui dire félicitations. Tu as tenté des coups de coaching. Est-ce que en mémoire, sur les tirs à 3 points de Steph Curry, tu as des erreurs comme ça ou c'est juste il y a juste à lui dire
alors,
félicitations?
On a dit honnêtement, à 2 minutes de la fin, on leur gueulait de faire prise à deux sur lui, parce qu'une fois on l'a fait.
Il lâche la balle, mais il lâche la balle et il lui redonne.
Bah, c'est ça qui s'est passé en fait. Voilà. Parce que la première fois qu'on l'a fait, il a perdu la balle, mais après il l'a lâché et elle est revenue sur lui au buzzer. Le buzzer qui met, c'est terrible. Puis le dernier, il est couché par terre.
Oui.
C'est respect.
Respect. Bravo, félicitations Vincent. Merci. Félicitations.
Voilà la première réaction de Vincent Collet, donc avec toi Stephen. On avait Jérôme là qui nous disait on a réduit les Américains à une équipe de shooters. Est-ce que il a raison Jérôme Steve?
C'est un peu réducteur, Jérôme. L'équipe de shooters, oui, enfin tout le tournoi, ils sont à 45% à 3 points. La ligne.
Ils disent que j'ai marqué 60 points à 3 points ce soir.
Oui, la ligne à 3 points.
Oui, mais parce que c'est leur type de jeu aussi.
La ligne à 3 points en FIBA, elle est beaucoup plus près qu'en NBA. Donc pour eux, cette distance, c'est rien. Ils peuvent tous mettre dedans. C'est trop facile pour eux quasiment. Ce sont des spécialistes du tir à 3 points NBA. Et je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de basket, mais aujourd'hui, le basket en NBA et même européen, c'est le tir à 3 points à outrance. C'est les équipes ne font que ça, donc dire que cette équipe américaine, on les a réduits à une équipe à 3 points, je trouve que c'est un peu sévère pour cette équipe-là.
Ils ont fait quoi les intérieurs? Embiid, il est resté sur le banc.
Anthony Davis, il nous fait mal, Jérôme, arrête. Anthony Davis, il nous fait mal.
Il a fait 6 minutes sur le terrain.
Les Brown James, quand ils traversent le terrain et qu'ils nous percutent et qu'ils vont mettre des rêves.
Jérôme,
pour l'équipe de France, tu l'aimes, mais ils sont un petit peu plus objectifs quand même.
Bon. Ben, il enthousiasme Jérôme, on peut le comprendre. On le remercie d'ailleurs d'avoir été avec nous. Oui, Embiid, on l'a presque pas vu, c'est vrai, ça fait, il a joué combien de minutes celui-là?
Alors les minutes d'Embiid, on va essayer de te trouver ça, mais on a plus les stats sous les yeux là. Je vais te chercher ça.
Voilà, c'est quand Emmanuel Macron est venu, il s'est dit non mais là faut que je me fasse discret quand même. Je vais rester sur le banc, sinon je vais avoir des problèmes. Bon, parle-moi un peu de l'ambiance Pierre là, parce que devant la télé ça avait l'air d'être le feu.
Là c'est retombé un peu, mais quand on est revenu à 3 points, mec, ça s'est réveillé, ça s'est électrisé. On sentait qu'il y avait quelque chose de possible. Hein. Ça a été une fête d'un bout à l'autre, parce que d'abord on a vu un grand match de basket. Et comme la France a jamais lâché, et ben t'as gardé l'électricité de l'excitation de début de match, tu l'as gardé jusqu'au bout. Et à la fin, on a eu le show Steph Curry. Bon alors là, ça a été le feu d'artifice. Et du coup, tout est retombé d'un coup au coup de sifflet final. Un peu avant, parce qu'on a compris rapidement que c'était terminé. Mais quand on est revenu à 3 points, mec, ici il s'est passé un truc. Moi j'y ai cru, je le dis franchement, parce que t'es devant ton public, c'est ça qui peut faire la diff face à cette équipe qui est injouable normalement pour n'importe quelle équipe européenne. Et tu te dis, avec cette ambiance là, tout le monde y croit, donc les joueurs forcément y croient. Et on a vécu un moment magique. Alors la fin est triste, mais ça a été franchement un moment de sport exceptionnel.
Pierrot, moi ce que je trouve, et pour avoir eu la chance d'avoir fait deux matchs dans cette arène là de Bercy, c'est que le public a répondu présent à tous les matchs de l'équipe de France à partir du moment là où ils sont arrivés sur Paris, qu'on est arrivé sur les matchs coup près. L'ambiance est montée, c'était monstrueux. Même pendant les matchs des adversaires futurs sur les deuxièmes rotations, les gens chantaient, on est en demi-finale, on est en finale. Il y a eu quand même une euphorie collective qui a vraiment permis à cette équipe de France de ne pas prendre l'eau encore une fois aujourd'hui, parce que là où ils ont été quand même forts mentalement, c'est qu'ils auraient pu à un moment donné en prendre quand même un coup derrière la tête en disant mais c'est pas possible, ils sont inarrêtables, parce qu'on met un panier derrière sa hanquille directement. Les Américains, 3 secondes après, t'en ont déjà planté un, il faut repartir comme ça de manière incessante. Et je les ai trouvés vraiment monstrueux dans l'attitude et dans la capacité à coller quand même d'une certaine manière au score.
Je suis d'accord que le grand mérite de cette équipe de France, c'est de n'avoir jamais lâché, même quand on a eu 13, je crois peut-être même 14 ou 15 points de retard, d'être toujours revenu, de s'être battu comme des chiens. C'est ça qui nous a offert cette fin de match de légende.
Alors,
je serais curieuse de savoir l'échange entre Kevin Durant et Wembanyama à la fin, là, quand ils ont fait ce mini-accolade. Intéressant.
Après, Kevin Durant, c'est le modèle de joueur de Victor Wembanyama, grand, élancé, avec des longs segments. Et Victor Wembanyama a beaucoup tenté de s'inspirer de Kevin Durant sur la façon de shooter. Donc voilà, je pense que c'était un échange là-dessus. Beaucoup de respect pour Victor Wembanyama. Et Kevin Durant, il sait que Wembanyama, c'est l'image et le visage de la NBA sur ces 10-15 prochaines années.
Dans un instant, on continue le débat. Le 32-16 est ouvert. Toujours le basket. On attend les réactions des joueurs français, des joueurs américains éventuellement avec Stephen.
J'ai la réponse à ta question, Gilbert, et tu as raison. Joel Embiid n'a joué que 11 minutes.
Mais voilà.
Oui, mais en fait, Joel Embiid d'entrée de jeu s'est fait détruire par Victor Wembanyama. Il n'a pas la mobilité pour défendre son Victor.
Trop long,
Steve Kerr a pris la décision d'envoyer Anthony Davis et Bam Adebayo, qui sont des garçons bien plus mobiles, pour s'opposer à Victor.
Alors, tout à l'heure, le volley, les gars. Hein, je rappelle que le volley a gagné, lui, sa finale cet après-midi face à la Pologne. On aura 3 membres de l'équipe de France de volley avec nous après minuit. On aura également avec nous Benjamin Thomas, médaillé d'or à l'Omnium cyclisme sur piste. On reparlera handball tout à l'heure et toute l'actu du jour avec toutes les médailles de ce samedi. Et puis, en ce moment, Marion, il y a un autre événement mis en place par Paris 2024 qui est absolument génial. C'est le marathon pour tous. Ce matin, il y avait le marathon.
Jean-Louis
Cour. Ah oui, Jean-Louis Cour. Alors ce matin, il y avait le marathon pour les champions, hein, évidemment gagné par l'Éthiopien Tola. Et sur le même parcours, ce soir, de nuit pour certains, il y a le marathon pour tous avec près de 40 000 personnes qui courent. Et on a quelques membres de l'équipe RMC.
Oui.
Et en fait, il y a un site magique où tu peux voir où ils en sont. Donc là, ils sont en train. Donc là, je peux te dire que Fanny Cousin, elle est à Versailles au niveau du semi-marathon. Elle, pour l'instant, elle mène le groupe RMC.
Fanny, elle a une allure de malade.
Ouais, elle est en train de mettre la misère à Jean-Louis Tour, qui lui est à Ville d'Avray, près de chez Stephen.
Ah, il passe dans ma rue, s'il a soif, il peut s'arrêter. Hein,
et Jean-Louis Tour vient de passer le pont de Sèvres. Donc, Pierrick Ten vient de passer le pont de Sèvres. Un peu à la traîne, Pierrick.
Mais Jean-Louis, pendant toute l'émission tout à l'heure, il était stressé de son marathon. Il faut l'encourager, là.
Non,
tu vas y arriver, Jean-Louis.
Je sais pas à qui il arrive à finir, il est 23h38, là, mais. J'espère avoir
4 heures. Jean-Louis, visez moins de 4 heures. J'espère qu'il va y arriver.
Dans un instant, on continue à parler basket. On aura Luigi avec nous au 32-16. A tout de suite.
RMC, l'After JO.
Gilbert Bribois.
Il est 23h40, Mario Bartoli est avec moi ce soir, oui, jusqu'à 1h du matin. Les États-Unis d'Amérique, comme on dit comme ça en vrai, en entier, c'est marqué sur notre télé là. On battu la France 98-87 en finale du basket.
Comme dirait Pierrot, les
ricains. Pierrot du ricain, ça passe aussi. Pierrot qui est là, Pierre Dorian à Bercy, Stephen Brun dans la zone d'interview. Alors a priori, on aura une réaction après le podium. Hein.
Alors, la cérémonie, le podium, l'hymne américain, et après les joueurs vont venir en zone mixte.
En attendant, on va parler, nous, handball dans quelques minutes. Mais d'abord, Luigi est là pour réagir à cette finale du basket. Salut, Luigi.
Salut. Bonsoir. À tous. Bonsoir.
Luigi. Tu retiens quoi, toi, Luigi, de ce match?
Moi, ce que je retiens, c'est une très belle médaille d'argent, puisqu'en fait, si on est un vrai amateur de basket, on sait très bien que cette équipe des États-Unis est certainement la plus forte qui a jamais été envoyée dans un tournoi de basket international. Et franchement, je pèse mes mots.
Celle de 92.
Ouais, ouais. Mieux que la Dream Team.
Vraiment, vraiment mieux que la Dream Team. Vraiment mieux que la Dream Team. Et après, non, c'est une question. Après, c'est une question. Voilà, il y a les fans de LeBron, il y a les fans de Michael. Il y a deux thèses différentes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ce qu'a dit l'intervenant précédent, c'est pas forcément si fou. C'est que quand on va arriver à Los Angeles en 2028, Kevin Durant sera plus là. LeBron James sera plus là. Stephen Curry sera plus là.
Oui, mais et tous les joueurs qui vont les remplacer, inépuisable.
Non,
de toute
c'est
façon,
faux.
Ils
c'est
produisent
faux,
tout le
c'est
temps.
Faux. Ça c'est.
Regarde depuis 30 ans, s'ils n'ont pas produit ce qu'ils ont gagné aux Jeux Olympiques. Regarde.
Oui, mais alors moi à ça je te réponds. Ouais, mais à ça je te réponds. Regarde ce que la France produit depuis 30 ans. On n'a jamais produit autant de bons joueurs aussi. Et là,
mais
en l'occurrence, Stephen Curry, il
n'y
en a pas dans le réservoir américain. Non, Stephen Curry, il n'y en a pas. LeBron James, c'est probablement le meilleur joueur de l'histoire. Ils vont pas le reproduire tout de suite, le meilleur joueur de l'histoire. De la
ce
même manière que Kevin Durant, c'est probablement
dans la culture
le meilleur
US
joueur.
Pour pas continuer à reproduire, Luigi, c'est pas possible.
C'est bien, ce moi, je suis.
Attends, la vie de Stephen, vas-y.
Si je peux me permettre, en NBA, les joueurs américains ne sont plus dominants actuellement, puisque les derniers MVP, ce sont des Slovènes, des Serbes et un Camerounais. Bon, là, comme par hasard, qui joue avec les Américains, Joel Embiid. Il y a. Les stars, quand elles vont partir, la relève, elle existe, mais elle n'est pas encore au niveau des Steph Curry et des Kevin Durant et des LeBron James. La relève, c'est Anthony Edwards, c'est Jason Tatum qui a très peu joué et qui va sûrement être un joueur majeur en 2028. Mais moi, j'attends de voir ces garçons-là capables d'atteindre le niveau en termes de popularité, en termes de palmarès en NBA que peuvent avoir les trois loustiques qui nous ont battus. Donc la France a un réservoir énorme. On a encore le premier choix de draft cette année. Il y a un garçon qui a 18 ans qui s'appelle Nolan Traoré qui va être dans le top 5 de la draft l'année prochaine. Il peut y avoir, je te dis pas un creux générationnel, ils auront toujours des joueurs exceptionnels, mais pour atteindre le niveau de ces trois mecs là qui ont été fantastiques sur le tournoi, je suis pas sûr qu'ils en ont encore en magasin. Ils vont en avoir plus tard peut-être, mais pour 4 ans je demande à voir aussi.
Et donc qu'est-ce que ça veut dire ce qu'est en train de dire Steve? Ça veut dire que là où les États-Unis vont diminuer en niveau, la France va augmenter en niveau, puisque nous, le réservoir de joueurs, il est en train d'arriver. Et c'est là qu'on arrive
à un peu. Ils seront à domicile, par contre, c'est pas la même.
Ouais, ils seront à domicile, mais est-ce que tu penses sincèrement que pour eux, ça va permettre il y aura Anthony Edwards, il y aura Jason Tatum, il y aura d'excellents joueurs, mais ça ne les fera pas arriver au niveau de LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry. Et
ce
soir, il n'y en a pas un de la nouvelle génération américaine. Il n'y a pas un mec de la nouvelle génération américaine qui aujourd'hui est au niveau d'un des trois.
Stephen et Luigi, est-ce qu'au final les Américains ont été plus embêtés par les Français ou par les Serbes?
Plus par les Français, parce que je pense qu'ils ont joué. Non, plus par les Français, parce qu'ils ont joué 40 minutes à fond contre nous, contre les Serbes. Ils ont été un petit peu en dilettante sur la première mi-temps. Voilà, bon, c'est mon avis. Si t'es pas d'accord, t'as le droit.
Luigi, toujours là, tu peux donner ton avis.
Non, mais simplement au score, contre les Serbes, ils étaient plus en difficulté. Ils étaient à moins de 17 à un moment.
Oui,
nous, contre les Serbes, ça se joue à des trois points un peu bizarres tirés à la fin par la Serbie et par un Nikola Jokic que t'as refusé de faire souffler ne serait-ce que 5 minutes sur toute la durée du match.
Mais si tu sors Nikola Jokic 5 minutes, c'est terminé, Luigi.
Tu penses?
Sois sérieux.
Je suis pas sûr. En vrai, je suis pas sûr. Non, mais ça se défend. En fait, moi, je suis pas tranché dans ma réponse. En tout cas, dernière chose qui est très importante à dire, c'est qu'aujourd'hui, le match, c'est pas vrai que tu le perds uniquement sur les trois points américains, comme le disait l'intervenant précédent, tu le perds aussi beaucoup au rebond défensif. On s'est fait péter les dents. Mais vraiment, c'est tout vrai. Le match aux joueurs défensifs par les Américains.
Les chiffres ne montrent pas ce que tu dis, Luigi. C'est ton impression visuelle qui te donne l'impression que les Américains ont beaucoup de rebonds offensifs.
Des deuxièmes chances, Steve. Tu l'as dit, les deuxièmes chances, il ne faut pas les donner.
Oui, mais il n'y en a pas tant que ça. Sur la globalité du match, il n'y en a pas tant que ça non plus. Ce n'est pas 15 ou 16 rebonds offensifs qu'ils prennent ce soir. Donc oui, il y a des rebonds offensifs qui vous font mal, mais les chiffres ne sont pas délirants non plus, parce que nous aussi, on en a pris des rebonds offensifs. Donc au final, ça s'équilibre. Peut-être qu'eux ont mieux rentabilisé les rebonds offensifs, Pierrot, que par rapport à nous. Mais l'écart, il n'est pas énormissime. Le 10 sur 17 au lancer franc me chagrine un peu plus, par contre.
Merci Luigi. Les gars, on va parler un peu handball parce que ce qu'on va faire, on va s'adapter à vous. C'est-à-dire, on va s'adapter, le podium arrive, pour pouvoir avoir de la place, pour ensuite pouvoir entendre les réactions avec toi, Stephen. Nicolas Paul-Orsi est là. Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Nico.
Nico, de retour de Lille.
Oui.
C'est rapide. Et tout à l'heure, tu étais donc là pour la finale de l'équipe de France féminine de hand face à la Norvège. C'était sur RMC. C'est parti.
Oui,
c'est parti, Jean-Louis Marion, finale des Jeux Olympiques. Les filles veulent finir en apothéose contre la meilleure équipe du monde, la Norvège. Objectif, un doublé. C'est la troisième finale d'affilée aux Jeux Olympiques pour cette équipe de France de hand. Sur le terrain, Tamara Horacek, demi-centre, Laura Flip arrière droite, Estelle Nzeminko, la capitaine arrière gauche sur les ailes, Alicia Toublanc et Chloé Valentini pour les tafos à l'intérieur. C'est du classique, la compo d'équipe. Siraba, début de match. Eni Rechtad pour Oftedal. Oh, le but incroyable de Stine Oftedal. Le talent, c'est une magnifique joueuse au poignet. Elle fait un tir à la hanche, elle arrive à le remonter dans la lucarne. Ça, c'est le talent individuel de Norvégienne. 15-13 pour la Norvège à la mi-temps. On est deux buts.
C'est la deuxième période face à la Norvège de cette finale olympique. Siraba Dembélé, Nicolas Paul-Orsi.
C'est reparti depuis une minute 32. On est toujours mené. On est même mené de 3 buts désormais par la Norvège. 17-14. Les Norvégiennes qui font la différence en ce début deuxième mi-temps. On a un ballon pour revenir à 2 buts. Les 14 dernières secondes de cette partie, les Norvégiennes sont déjà en train de se congratuler sur le banc de touche. Elles attendaient ça depuis tellement longtemps. C'est une si belle équipe avec des joueuses magnifiques. L'équipe de France de handball féminine s'incline 29-21 dans cette finale des Jeux Olympiques. La montagne était trop haute. Le rêve de ces bleus s'effondre. Elles rêvaient de conserver leur titre à Paris, mais là la marche était bien trop haute. On va devoir se contenter de cette médaille d'argent malgré tout.
Nico, il n'y a pas eu photo.
Il n'y a pas eu photo, dominé de A à Z. En tout cas, pendant 20 minutes, on a fait illusion. Je pense que les filles, elles étaient à l'énergie. Elles sont nourries un petit peu de l'ambiance dans la salle, l'hymne, voilà, l'émotion, la dernière de Crumbles potentiellement. Plein de choses qui ont fait que pendant 20 minutes, tu tiens. Et après, physiquement, on sent qu'il y a des joueuses qui sont au bout du bout, qui sont complètement rôties. La capitaine Estelle Nzeminko, elle marque 0 but, alors qu'elle fait un super tournoi. Tamara Horacek, dans le champ, elle fait 0 sur 4 aussi. C'est-à-dire que tu as deux de tes joueuses majeures qui sont à 0 sur 8. T'as trop de déchets et face à une équipe comme la Norvège, ça se paye cash. Il y a pas de...
Surtout qu'en plus les deux Norvégiennes qui marquent énormément de buts, elles étaient complètement au rendez-vous. Mais je pense que elles ont laissé un tel influx nerveux pour revenir, pour accrocher d'abord l'égalisation, qui du coup les amène en prolongation, qui amène la victoire contre la Suède. C'est dur de repartir 48 heures après. Le tournoi est quand même long. On passe beaucoup de temps ensemble.
Enfin, c'est ce qu'elles vivent aussi sur un championnat du monde ou un championnat d'Europe.
Non, mais bien sûr, mais là l'influx que tu laisses sur une finale olympique en plus à la maison.
Tu sentais que les Norvégiennes étaient plus fraîches. Rien que dans les temps de jeu, la France a un peu plus galéré en quart de finale, en demi-finale. Donc on a tiré sur la couenne de certaines joueuses.
Et je pense que la finale du championnat du monde, les Norvégiennes, elles voulaient vraiment pas revivre ça.
Et puis c'est une génération incroyable. La Norvège, hein. C'est des superbes joueuses qui sont à maturité, 30-34 ans, qui pour la plupart disputent leur dernier jeu à la maison. Donc franchement, t'as même pas de regret à avoir. Ouais. Le seul regret que t'as à avoir, c'est que t'as pas existé. Mais la marche a été tellement haute, il y a un tellement grand écart entre les deux équipes sur la deuxième mi-temps, que les filles, tu le sentais en zone d'interview, elles ont tout de suite basculé sur le côté, bon, on a quand même notre médaille d'argent à la maison, on voulait jouer cette finale, on y est, on a été surclassés. Il y a 6 mois, c'était nous qui étaient largement supérieurs par rapport aux Norvégiennes. Là, elles nous ont marché dessus.
Et leur gardienne, hein, de 44 ans, a fait un match d'anthologie aussi. Hein.
Elle a une carrière et une histoire, cette joueuse. Elle a été maman. Elle est revenue super tard. Et
c'est leur première médaille olympique. Hein.
Exactement. Alors que ça fait Catherine Hundeux, ça fait 22 ans qu'elle est au plus haut niveau. Tu as une joueuse comme Stine Oftedal, qui est la meilleure joueuse du monde depuis 10, 12 ans, qui est super régulière. Eni Rechtad, Olivier Crumbles, il nous disait en zone mixte, c'est la meilleure joueuse du monde actuellement. Eni Rechtad, elle nous fait très mal. Donc voilà. Et si nous, nos individualités, elles sont moins bien, tu peux pas rivaliser contre la Norvège. Il faut faire le match parfait. On l'a pas fait. Et on a été défaillant dans pas mal de secteurs.
J'ai trouvé les filles un tout petit peu hésitantes au niveau des tirs. On voyait qu'elles avaient du mal à être rapides sur les appuis, donc elles essaient de prendre un temps de pause. Et en fait, quand tu casses le rythme, quand tu casses la dynamique, t'arrives pas à enchaîner le tir.
Quand physiquement
tout de suite,
t'es
c'est
pas
dur.
Bien, tu sais, quand physiquement t'es pas bien, que voilà, c'est, ça se joue à des micro dixièmes de seconde, tout ça. Mais la prise de décision, elle est tellement importante. Sinon, t'as la défense qui ferme derrière, t'hésites, est-ce que tu fais une passe et tout ça. Donc voilà, c'est quand même un petit échec hein, pour le hand français globalement, hand masculin et hand féminin.
T'étais sur deux médailles d'or.
T'étais potentiellement sur deux médailles d'or. Tu repars avec une seule médaille d'argent.
C'est moins bien.
Donc pour les filles, on va pas parler d'échec. C'est une déception la finale d'aujourd'hui. Mais pour les garçons, c'est un gros échec.
Alors, sur les filles, on va écouter quelques réactions. Estelle et Nzemiko, notamment, que tu as vu tout à l'heure après le match. Elle arrive.
Ouais, franchement, c'était une quinzaine vraiment intense. Et c'est surtout que c'est cumulé, en fait. Finalement, entre le mondial et là, les Jeux, on a quasiment pas eu de repos. On a été, en tout cas, mentalement mobilisés tout le temps, avec tout le temps des objectifs très forts. J'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné, franchement, physiquement, mais aussi voilà, émotionnellement avec les joueuses, dans le partage, essayer de mettre des choses en place. Voilà. Mais c'était très, très intense, c'est sûr.
Voilà pour Estelle Nzemiko. Alors, il y a des joueuses qui vont arrêter, là, en général, après les grandes compètes comme ça.
On sait pas encore. Officiellement, aucune n'a annoncé sa retraite. Même Crumbles, il ne l'a pas annoncé. On ne sait pas s'il ne va pas aller à l'Euro. Mais bon, voilà, s'il va à l'Euro, c'est pour faire une passation de pouvoir, une transition.
C'était
avec
son 537e match.
C'est ça,
hein,
ouais. Ouais, 7e pour Jeux Olympiques. France, c'est quand même énorme. Trois médailles. Parce que mine de rien, on en est à trois médailles sur les trois derniers JO. Hein, ouais. Rio, ouais. Tokyo. Donc voilà, il y a certainement un changement générationnel qui va avoir lieu. Mais là, dans le discours d'Estelle, je pense qu'il y a quelque chose qu'on, nous, on n'a pas trop. C'était pas palpable pour nous, mais en fait ces filles elles préparent cette compète depuis 3 ans, 4 ans depuis Tokyo, et dans leur tête tu sentais qu'il y avait un vrai soulagement d'avoir réussi à gagner une médaille, même si c'est l'argent à la maison. Je pense qu'elles avaient tellement peur, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de sportifs, pas que le hand, mais de décevoir, d'être un peu, il y avait tellement d'attentes sur le hand, on le disait, si t'as pas la médaille d'or c'est que t'as raté ton tournoi, et donc tu vois, je pense que elles étaient au final tellement contentes d'avoir quand même réussi à aller décrocher cette place en finale, que c'était une vraie chape de plomb qui s'est évaporée tout à l'heure en zone d'interview.
Écoutons aussi Olivier Crumbles qui analyse le match. Bon, il est lucide, il pense que la Norvège est plus forte.
La médaille d'argent, elle est super. On a fait un très beau parcours. On a réussi à éviter la Norvège. C'était plutôt une bonne idée quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. On a maîtrisé, on a gagné 6 matchs. On a été longtemps la seule équipe invaincue de cette compétition. Je ne regrette pas mon choix d'avoir choisi la poule que j'ai choisie. Maintenant, il y a une grosse déception aujourd'hui. Déception de l'avoir perdu. Il y avait une médaille d'or olympique au bout. Et puis, déception de ne pas avoir réussi à les tenir. J'aurais préféré une toute petite défaite.
Il aurait préféré une petite défaite à prendre une petite branlée. Oui. En fait, c'est ça.
Ouais, il aurait aimé que son équipe rivalise un peu plus, que tu les emmènes dans un match compliqué. Voilà. Au final, bon, si tu perds un but, là, pour le coup, je pense que tu as vraiment des regrets. Là, tu n'en as pas.
Alors, on a Hervé qui est là au 32-16 pour parler hand. Hervé, bonsoir.
Bonsoir.
Bon, on est d'accord que là, on va pas jeter la pierre à l'équipe de France féminine, quoi. On a l'impression qu'elles ont fait le max.
Bah, non, absolument pas. Je pense que si vous vous rappelez les matchs de préparation, ils avaient joué la Norvège. Mm-hmm. Il y avait eu une victoire partout. Ils avaient pris une petite déculottée dans les premiers matchs de prépa contre elles. Et ce sont deux équipes qui se retrouvent régulièrement en finale. Je pense qu'on ne peut pas gagner à chaque fois. Je pense que le parcours des Bleus est exceptionnel. On a bien vu que le hand masculin ou féminin, il y a 4-5 équipes qui se valent. Et puis, à un moment donné, les Français sont souvent dans le dernier carré. Et puis après, le haut niveau, c'est comme dans tous les sports, quoi. Et une fois, ça peut passer. Une fois, ça passe pas. Mais bon, le hand féminin, comme le masculin, parce que ça ne se joue à rien, est quand même un sport de base du sport français.
Ouais, exactement. Le masculin, je suis quand même moins d'accord. Le masculin, je pense qu'il y a une vraie remise en question.
Mais là, il va y avoir du changement de partout. Un nouveau sélectionneur chez les filles.
Exactement.
Changement de génération, peut-être chez les garçons. Qu'est-ce qui va se passer avec.
Il y a un nouveau staff chez les garçons aussi.
Ouais, Guillaume Gilles reste, c'est sûr, à 100%.
Guillaume Gilles reste, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'infos comme quoi il serait sorti de son poste.
Mais en fait, chez les garçons, la déception, elle se joue sur 6 secondes.
Oui, mais.
Parce que si dès quand même, il prend pas cette décision, qu'il n'y a pas le contre, etc. Ça passe.
Mais bien sûr que résultat, bien sûr qu'il change complètement notre perspective. Mais à l'Euro, tu gagnes sur deux coups de génie. Ouais. Tu gagnes, c'est un miracle. À l'Euro, si tu termines quatrième et que tu perds en demi-finale et la 3-4, c'est pas scandaleux hein, au niveau
ouais,
du
contenu.
Là, ce qui est plus inquiétant, c'est que sur la phase de poule, t'as galéré contre des équipes contre lesquelles tu perds jamais. La Norvège, normalement, tu perds jamais. Tu fais match nul contre l'Égypte, qui est une équipe, une très bonne équipe, mais que tu dois dominer. Donc ça veut dire que dans le contenu, on est moins bien. Il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. Et souvent, tu vois, Marion, quand on se prépare bien, enfin, je sais pas, c'est ce que nous ont dit tous les handballeurs là. Nous, on gagne tout le temps sur des petits détails, mais c'est que t'as tout fait pour préparer ces petits détails et pour les faire basculer en ta faveur. Et là, voilà. Et là, c'est un peu symptomatique. C'est-à-dire que t'as eu des choses qui sont passées dans la prépa. Il y a des choses qui ont peut-être pas été bien faites, des décisions de Guillaume Gilles, des choix sur la liste. Ou voilà, il y a des choses dont il faudra parler. Bon,
après, il y a eu quand même un décès d'un kiné qui était très proche de beaucoup de joueurs, qui les a énormément affectés. Enfin, il y a eu aussi des voilà, quelques soucis pendant la préparation qui peuvent être difficiles à gérer
ça
aussi.
Ça peut les impacter, mais je pense qu'il faut qu'on se remette en question dans le hand français. C'est-à-dire que je sais pas si après l'Euro, vu qu'on avait gagné, on s'est pas dit on va attaquer les jeux en faisant la même chose.
Mais tu sais, Nico, ça me rappelle un petit peu les archi-dominations qu'on a dans certains sports. Parce qu'on les a eues au fur et à mesure des décennies. Hein, ça remonte à très longtemps maintenant pour le hand masculin. Et en fait, au bout d'un moment donné, t'arrives quand même un peu au bout du cycle. Et c'est dur de rester tout le temps qu'en haut. C'est-à-dire que, entre guillemets, ce qui va te guetter, c'est de faire moins bien. C'est malheureusement.
Et mais ce qui est dramatique pour le hand, c'est que c'est le sport qui a ramené le plus de médailles à la France. Ouais. Tu passes à côté de tes Jeux Olympiques à Paris, alors que t'as le volley qui est champion olympique, que t'as les basketteurs qui font quand même une super fin de tournoi et encore une belle finale tout à l'heure. Et t'es tout le temps comparé à ces deux sports-là. Et que sur les Jeux, le moment qui était attendu aussi par la fédération pour faire briller le hand, pour essayer d'avoir des licenciés, voilà, pour, tu jouais
devant 28 000 personnes. Les licenciés, tout le monde devait en avoir là. Hein.
Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Gilbert, c'est que
t'avais le hand. Et le hand, ça fait des années
Gilbert,
qu'ils sont
au top. Gilbert, tu crois que le tennis, ça va inspirer
Attends, Pierre Dorion nous appelle là pour le podium des basketteurs français.
Oui, ça y est, enfin. Tu sais pourquoi ça a mis tant de temps? Parce que les volontaires ont eu du mal à faire le puzzle du podium. Donc ça y est, ils sont tous de retour. Les Serbes sont montés sur la troisième marche du podium. On va appeler les Français dans un magnifique survêtement blanc. Il y a beaucoup de sourires hein, quand même sur le visage français.
C'est
notamment
Pogazol
chez Mathias
qui remet les médailles.
Absolument. Et Guerchoni Abouzélé. Et il y en a un, je peux vous dire, qui est resté dans le flot de sa fin de match. C'est Steph Curry. Tu le remets sur le terrain, là, il peut te refaire un match de 48 minutes. Hein.
Par contre, il m'a fatigué avec son protège-dents. J'aurais dû arracher son protège-dents, celui-là. Après, il le prend avec le...
grand respect. On a vu un truc légendaire, Gilbert, en fin de match.
Donc, fais un résumé. Gilbert est énervé par le protège-dents de Steph Curry.
Soit légendaire, mais quand tu fais les lancers francs, mais pas ton protège-dents comme ça.
Et Stephen est énervé par l'attitude de LeBron James. Bon.
Écoutez l'ovation pour Nikola Jokic.
Et là, Stephen?
Stephen, il est là, hein, il est toujours en zone d'interview.
Vous l'entendez
patiemment, ouais.
Il est pas là. Il est revient tout à l'heure.
Bon, ouais, je suis là.
Ah, t'es là ? D'accord. Bon, remise des médailles. Non, parce qu'en fait, on voulait lancer un débat, c'est que Kevin Durant, bon, c'est bien gentil, mais est-ce que c'est mieux que Guillaume Durant ou Jackie Durant ? Je veux dire, dans la hiérarchie des Durant.
Ou Durant-Durant.
Ou Durant-Durant.
Je pense que c'est mieux que tout ça, ouais.
Ah, moi, je pense qu'avec Jackie Durant, il peut y avoir un match. Hein.
Sur un vélo, ah, oui.
Jackie Durant, légende, oh. Exactement, il a raison, Pierre, légende.
Oui, je le contraire.
Respecte les légendes.
Est-ce que les légendes du vélo, c'est supérieur à les légendes du basket?
Ah, le débat est ouvert.
Je pense qu'en France, si tu fais un petit sondage.
Par contre, le test des Champs-Élysées, Kevin Durant et Jackie Durant, je crois savoir c'est qui le plus de photos, par contre.
Ah non, Steve, t'as pas le droit, le c'est qui t'as pas le droit.
Ah ouais, mais attends, le test des Champs-Élysées, Guillaume Durant, il est peut-être tous d'accord. Eh oui, monsieur. Il y a 20 ans de télé. Bon, bref. Bon allez, on vous laisse. Ça va être au tour de l'équipe de France de monter sur le podium, je crois.
Oui, on va appeler l'équipe de France, absolument. Est-ce que tu veux qu'on reste là?
On va regarder
Gilbert.
Qui a le plus grand nombre de followers sur Instagram.
Je peux
ça
vous dire que les Serbes, ils sont en train de kiffer leur moment là. Ils sont.
Le problème des Serbes, mecs, je vais t'expliquer. Ils ont joué à 11h ce matin. Ils sont médaillés de bronze. Ça fait 7h30 qu'ils se mettent binous sur binous dans le cornet dans Paris. Donc je peux te dire qu'ils sont, oui. Ils sont bien. Enfin, il y a des vidéos qui circulent. Ils sont torse poil avec des cigares dans les rues de Paris. Donc oui, je pense qu'ils sont contents.
Alors, Pau Gasol va remettre les médailles d'argent aux Français dans quelques instants, messieurs.
Très bien. Il nous en a fait gagner beaucoup de médailles d'argent, Pau Gasol.
On a vu une discussion Pau Gasol Tony Parker, c'était très amical hein, tout à l'heure.
Oui, ils sont amis, bien sûr.
Ils sont amis. Non, il n'y a plus de rancœur de toute façon. Je crois qu'il n'y en a jamais eu entre ces deux-là, mais entre les deux nations, il y en a eu.
Ces deux garçons qui ont
les fameuses rivalités France-Espagne de l'époque.
Oui, Pau Gasol, Tony Parker, c'est la même année d'intronisation au Hall of Fame l'année dernière, hein, Pierre, où ils étaient ensemble. Hein.
Tout à fait.
Bon, Wembanyama, ça va mieux, il a séché ses larmes.
Je vais te dire, alors Wembanyama, il est triste. Voilà. Je pense qu'il s'était mis une mission de tout de suite. vite dominer le basket mondial et ça l'a pas fait face à cette équipe américaine.
Mais
qui
c'est
était
bien
ce
qu'il
soir
ait cette attitude.
Très, très très fort.
C'est bien qu'il ait cette attitude, c'est comme ça qu'il ira gagner des grands titres d'ailleurs. Parce qu'il va refuser la défaite.
Il finit meilleur marqueur du match quand même, Victor Wembanyama.
Et tu penses que la finale a magnifié un peu son tournoi parce qu'il avait été pas mal critiqué quand même.
Critiqué pour son faible apport offensif, à son petit pourcentage, surtout à l'Accor Arena. Maintenant, Victor Wembanyama, son tournoi, c'est quand même meilleur marqueur, meilleur rebondeur, meilleur passeur et meilleur contreur. Donc bon,
c'est réglé.
De toute l'équipe, donc,
voilà, les Français sont appelés sur le podium, ils y montent et ils sont applaudis par les Américains.
Ah mais tu vois, Steve, qu'ils sont bons joueurs, ces Américains.
Quand t'as gagné, tu peux les applaudir.
Par contre, je pense que sur le test des Champs-Élysées, LeBron James a 150 millions de followers, ça devrait passer, non?
Ça devrait passer.
Non, ouais. C'est même Jackie Durand, non? À 159 millions de followers. Non,
Jackie Durand, il a un MySpace et un Skyblog, par contre, je sais pas si vous.
Et un compte MSN.
Vous avez entendu Victor Wembanyama, l'ovation. Rudy Gobert. Et Mathias Le Sort qui a sorti le drapeau de la Martinique, qui l'a mis sur ses épaules au moment de recevoir sa médaille d'argent.
Faut faire gaffe avec les drapeaux des Dom-Tom en ce moment.
Surtout que le drapeau de la Martinique, il ressemble beaucoup sur le drapeau de la Palestine. Oui. Donc que ça aurait pu être interprété comme
blague
un geste
à part,
politique.
Je me permets, parce que ce n'était pas prévu, mais il y a eu toute une polémique parce que Riner a brandi un drapeau de la Guadeloupe. Et Riner a dit, mais c'est ridicule en fait.
Ah, c'est pas la France.
Et alors tous les drapeaux bretons qu'il y a dans tous les sens, dans tous les stades du monde, alors c'est quoi? C'est la même chose. On dit pas que les bretons sont les indépendantistes. Donc tous les bêtas qui disent que Riner a brandi le drapeau des indépendantistes, et ben c'est des bêtas. Voilà, c'est ridicule.
On n'oublie pas l'accord, Gilbert.
Ou voilà, le drapeau corse, pareil.
Et le drapeau basque.
Le drapeau basque. Le drapeau alsacien.
Écoutez ça, MVP pour Gershon Yabusele. Je te l'ai dit tout à l'heure, Steve.
La standing ovation, Gershon Yabusele qui devrait, à mon sens, être élu dans le meilleur 5 du tournoi.
C'est quand qu'on sait ça?
C'est à la fin du tournoi, il y a eu un vote, un panel de journalistes, il y a le meilleur 5 et il y a le MVP du tournoi. Le MVP, Steph Curry, a fait deux matchs exceptionnels.
Nicolas Batum, le capitaine.
Ouais, dernier match en bleu pour Nicolas Batum.
Énorme ovation.
Très bien. Bon, voilà, ils ont tous leurs médailles. On va donc se quitter quelques instants. On revient tout à l'heure pour les réacs, les gars. Nico, merci pour le hand. Bonne continuation. C'est quoi les prochains rendez-vous là du hand?
L'euro pour les filles et le mondial pour les garçons au mois de décembre, dans ces eaux-là, janvier pour les garçons.
Le hand, l'avantage, c'est que tous les 3 mois,
tu as une compète. Exactement. Tu peux te relancer très vite.
Exactement. Merci Nico. Dans quelques instants, la suite du basket avec les réactions, le volley avec les internationaux champions olympiques cet après-midi, match
là, par contre, eux, ils étaient
exceptionnel.
En démonstration, hein, Gilbert.
Ouais, face à la Pologne, 3-7-0. On parlera également cyclisme sur piste un petit peu plus tard avec Benjamin Thomas, plus tout le reste de l'actualité du jour jusqu'à 1h du matin dans l'after. Et puis notre petit point marathon pour tous de nos amis d'RMC, nos collègues qui sont là. D'ailleurs, on va aller sur place avec Kevin Morand. Sachez que Fanny Cousin approche de Viroflay. Voilà, elle est là, elle est au 25e kilomètre. Jean-Louis Tour est à Versailles au niveau du SMI. Et puis Pierre Ecten est à Sèvres. Voilà, Sèvres, tranquille. Pas très loin de chez Stephen. A tout de suite avec l'athlée également au programme, car oui, messieurs, dames, on a fini par avoir une médaille à l'athlée. On va analyser tout ça dans quelques secondes.
RMC. After JO.
Gilbert Bribois.
On va y aller pour 12-13 secondes de bonheur pour Serena Sambamayala. Les Américaines partent très fort dans le cœur de la course. Il n'y a pas de faute pour l'instant de Serena Sambamayala qui peut terminer très fort.
Elle y est.
Allez Serena, elle y est peut-être.
Allez, ouais.
Elle y est peut-être
ouais.
Dans les bras.
Elle
pour
aimer.
Pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a la photo. Il y a la photo pour Serena Sambamayala.
Peut-être
on va
rêver.
On va peut-être avoir droit au bonheur. Il y a 3 filles, 4, 5 qui sont quasiment à égalité. Il y a les Américaines Stark et Russell. Il y a Camacho Queen.
Mais elle est médaillée.
On va retenir notre souffle. Alors c'est Masai Russell, championne olympique américaine en 12-33. Nous, on va y avoir droit. On va y avoir droit. On va pas finir à 0. Serena Samba Mayala est vice-championne olympique.
Voilà.
Elle s'est préparée pour ça.
Voilà.
Nous aussi, on a le droit de vibrer. Nous aussi, on va voir le bleu, blanc, rouge.
Ah là là.
Le drapeau sur le podium, les larmes de Serena Samba Mayala. Bien sûr qu'elle a sa place. Bien sûr qu'elle a sa place parmi les meilleurs du monde. Et l'athlétisme ne finira pas, Fanny, à Paris en 2024.
Ah bah donc, ils sont soulagés.
Elle était belle cette course, elle était magnifique cette course. Et puis surtout en demi-finale, elle avait accroché une haie. On sentait qu'elle avait les jambes, on sentait qu'elle avait la vitesse, mais il fallait juste faire la course parfaite. Et franchement, ça se joue à rien, mais ça nous rappelle tellement la finale de Noah Lyles. Juste que ça n'a pas tourné en la faveur de Sirena, mais franchement, elle a fait une course absolument sublime, sublime. Totalement mérité cette médaille d'argent.
Aurélien Tirsin et Renaud Longuèvre sont là parmi nous. Salut les gars.
Salut les amis.
Salut.
Salut les gars.
Bon, le bilan est sauf.
Ça fait du bien. Non,
oui,
ça fait du bien.
C'est clair.
L'année dernière au Mondiaux de Budapest, le 4x4 nous sauve à la toute dernière course, à 30 secondes de la fin de la dernière soirée. Là, c'est un peu plus tôt. Donc on a pu apprécier les dernières finales après les relais 4x4. Non, mais
d'ailleurs les 4x4 français là, faut vraiment qu'on en parle parce que
ah oui, il faut qu'on en parle.
Qui est responsable de la chute? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est les autres? Parce qu'il revenait là, on a l'impression qu'il était.
Alors, on y a cru. Alors on y a cru. Justement, on en a discuté avec Renault. Alors après, effectivement, Fabrizio Saidi qui se rabat peut-être un peu trop vite devant ses adversaires. Et bon, de toute façon, il n'y a pas de débat dans le sens où il n'était pas en train de revenir. C'est pas une chute avec le troisième à ce moment-là. Là, c'est entre le 4 et le 5e. Donc, parce que je parlais justement des mondiaux de Doha 2019 où Pascal Martino Lagarde a été co-médaillé de bronze avec Orlando Ortega. Parce que Ortega a été gêné à la dernière relais par un autre adversaire et il était à égalité avec PML. Du coup, ils ont dit on donne deux bronzes aux deux. Et là, j'ai demandé à Renault si c'était possible. Mais comme il a la bagarre avec la 5e et 6e place, il n'y a pas de débat. Mais donc, Sirena Samba Mayela, Renault en parlait aussi. Bah, elle avait déjà l'expérience. Elle est vice-championne du monde en salle. Et championne du monde aussi en 2022, championne d'Europe, a connaissé l'atmosphère de ses finales, mais elle nous a quand même bluffé parce qu'elle revenait du Covid, et tu l'as dit Marion très bien, sa demi-finale était moins aboutie, et là elle a mis une claque aussi à Jasmine Camacho-Quinn, qui est la championne olympique en titre.
Oui,
Renaud, est-ce qu'on doit se dire finalement, parce que l'athlée est finie, que cette médaille, on va dire, sauve le camp français,
tout, oui.
Ou bien est-ce que malgré tout, c'est pas suffisant?
C'est pas suffisant. Pas suffisant, hein. Ça fait deux médailles en 8 ans. Si on rajoute Kevin Mayer à Tokyo. Donc, voilà, si on compare le bilan du président de la fédération.
Et Renaud, t'as des explications à ça? T'as les raisons? C'est générationnel, c'est un creux générationnel, c'est un mauvais entraînement, mauvaise décision de la part de l'ETN. Ça part sur quoi?
Non, moi je crois pas du tout au creux générationnel. Je l'ai déjà dit. C'est lié au choix. Si tu veux le casting, le président, il a tous les pouvoirs en France. Le président, c'est lui qui choisit le DTN, c'est lui qui choisit le directeur de la haute performance. Et je l'ai déjà dit, on avait un directeur de la haute perf qui était excellent, c'est le Florian Rousseau. Florian Rousseau qui réussit magnifiquement avec le vélo. Mais Florian, il est parti au lendemain des Jeux de Tokyo parce qu'il y avait un malaise avec le président. Donc si tu veux, il y a eu un manque de continuité et Romain Barras et Patrick Ranvier, ils sont arrivés 2 ans et demi avant les Jeux. C'est cette instabilité-là qu'on paye.
Bon, oui, et alors on a pendant toute la période d'athlée parlé également de la sélection pléthorique, du niveau de certains. On a vu des finalistes, hein, c'est pas le problème, mais on a vu aussi des athlètes parfois complètement largués. Donc
oui,
on peut aussi se poser cette question-là.
On a vu Alessia Zarbo par exemple avoir une défaillance sur le 10 000 chez les filles, pareil avec Jan Schrupp chez les garçons. C'est ça le problème en fait, c'est l'impression qu'on se faisait tarter en permanence parce qu'on avait 88 athlètes puisque Margot Chevrier et Ludwig Vaillant ont été écartés au dernier moment. Et donc t'as cette impression que les Français ils sortaient à l'appel au premier tour, mais Renault l'a aussi souvent dit, à Rio ils avaient fait une sélection beaucoup plus restrictive, il n'y avait qu'une trentaine d'athlètes, là on en avait 88, donc forcément il n'y en a qui n'ont pas le niveau olympique, c'est une certitude, sinon on roulerait sur le monde de l'athlée. Mais là, je regardais aussi au niveau de la placing table, parce qu'on aime bien faire ça en France, puisqu'on n'a pas de médaille, donc faut bien se contenter. Mmh. C'est un nombre de points en fonction du top 8. Et on a 10 finalistes. C'est quand même beaucoup mieux qu'à Tokyo, finalement. Il y a quand même une progression et une génération 2024 qui sera peut-être la génération 2028. Alors, c'est ce sur quoi on va s'accrocher.
Renaud, là, si on essaye de voir le positif, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant? Parce que là, on a 4 ans avant les prochains Jeux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver à être meilleur à Los Angeles?
Déjà, il faut recréer de la proximité avec les athlètes de très très haut niveau. Là, Sirena l'a médaillée, pour être clair avec vous. Il y a un an, elle fait le choix de s'exiler aux États-Unis. Elle va s'entraîner avec l'entraîneur de la championne olympique, donc Coghlan, l'Irlandais. Et c'est un choix fort, mais c'est son choix à elle. Pour en avoir parlé avec elle directement, c'est pas un choix qui a été encouragé par la fédération.
Oui, mais c'est un choix gagnant.
Et elle a dû faire, elle a dû assumer, elle a dû assumer et financièrement de dire c'est mon choix, j'y vais, mais je sais qu'en tout cas. Je dirais pas qu'ils lui ont mis des bâtons dans les roues pour faire ce choix.
Mais ils l'ont pas supporté, ils l'ont pas aidé.
Mais en tout cas, c'était pas. Elle a pas été encouragée, elle a dû assumer plein de frais elle-même. Elle a dû voilà.
Donc, tu crois mais que c'est un choix payant. Faire trop d'égo, c'est savoir trop magnifique. D'égo. C'est avoir l'ego mal placé en disant non, on est les meilleurs en France, on doit vous entraîner. Enfin, vous devez vous entraîner en France et pas ailleurs.
Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule vérité dans le très haut niveau. Marie-Jo Pérec, elle a fait 2 titres olympiques à Atlanta, elle s'entraînait aux États-Unis, mais ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer tous les athlètes aux États-Unis, Marion, tu vois.
Oui, mais j'essaie de comprendre, comment on en est arrivé à ce niveau-là aujourd'hui.
Le très haut niveau, c'est du cousu humain, le très haut niveau. Mais il faut une équipe de France. Ça veut dire que tu peux pas imposer à tout le monde d'aller à l'INSEP ou des choses comme ça, mais il faut garder de la flexibilité. Par contre, il faut créer un attachement total à l'équipe de France. Et pour ça, il faut de la proximité avec les athlètes. Et c'est comme ça qu'il faut travailler avec le très très haut niveau. Tu sais bien, il y a pas, tu peux pas appliquer la même méthode,
oui, la même méthode
avec
pour tout le monde.
Ouais, Samba ça. Mayela, avec le maître, avec la Villeni, avec tous ces gens.
La preuve, Renaud, il y en a plein d'autres qui s'entraînent aux États-Unis pour lesquels ça marche pas. Il y a les frères Zézé, il y a Pablo Matteo. Alors c'est peut-être pas la même personnalité, les mêmes qualités qu'ils ont dans les jambes qu'une Cyrina Samba-Mayela, mais c'est pas la recette magique de partir aux États-Unis, t'as raison.
Ben, il me semble. Et puis bon, c'est pas non plus de dire bon, allez maintenant tout le monde à l'INSEP, qui n'est pas en France n'est pas soutenu ou des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment le travail de la haute performance en athlétisme, je précise. Il s'agit pas de donner des leçons aux autres sports, mais il me semble que c'est un travail comme ça de cousu humain.
Ouais.
Mais ça doit s'ancrer sur une culture de la gagne et un attachement à l'équipe de France.
Écoutons Romain Barras, donc le patron de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme.
Oui, c'est un bilan décevant. Néanmoins, on voit que pour aller chercher une médaille sur ces Jeux Olympiques qui ont un niveau extraordinaire, il fallait souvent un record de France. Parfois même un record d'Europe ne suffisait pas pour aller chercher une médaille. On avait des athlètes qui étaient, on le savait, capables d'aller chercher des médailles. Ça se jouait entre la troisième place et la cinquième, sixième place. Voilà, pour en attester, un niveau qui s'est densifié depuis quelques temps. Je crois qu'on avait fait 26 points à Tokyo, on en fait 38 aujourd'hui, donc on a plus de finalistes. On a plus de la tête cassée, ça suffit pas encore parce que le niveau est vraiment très très bon.
Voilà pour Romain Barras. C'était quoi le record de médailles aux Jeux pour la France ?
6. Enfin, dans les Jeux modernes.
Oui.
Parce qu'il y avait après, il y avait Paris 1900, je crois.
Oui, bon, c'est autre chose. Les Jeux modernes.
Mais ouais, c'est 6 à Rio.
6 à Rio.
Et sinon, on tourne aux alentours de 2, 3. Voilà, là. Non,
je te pose la question à dessein. C'est-à-dire quand. Bon, l'athlète français n'a jamais eu 20 médailles à des Jeux Olympiques.
Mais non, alors, non plus. C'est ça le problème.
Bon, on attend peut-être toujours. On sait très bien la nation qui domine l'athlète aujourd'hui mondial. Enfin, quand on voit la finale du relais féminin, j'ai l'impression que c'est pas le même sport.
Tu vois, tout est fragile. Regarde les Jamaïcains, par exemple, cette année. Ils sont bidons.
Oui.
Il y a le Botswana, tout à coup, arrive très fort. Donc, tout ça est aussi très fragile.
Et puis, il y a aussi, voilà, tous ces pays qui vont s'entraîner aux États-Unis. C'est aussi pour ça que toute la Caraïbe arrive à performer, parce que c'est des athlètes qui sont repérés et qui partent très vite aux États-Unis. Mais c'est vrai
la finale du relais féminin,
c'est un autre sport. Elles ont Gabi Thomas, championne olympique du 200, et Sinéma McLaughlin, la record woman et championne olympique du 400. Et donc déjà, tu les mets les deux ensemble, elles étaient largement devant. Mais on a quand même une densité intéressante en France. Et après, il y a un débat encore plus grand qui fait que, on a parlé des sports collectifs tout à l'heure avec Nico, le volley, le basket, le hand. Il y a des pays où l'athlète c'est le sport numéro un. Nous, c'est un sport qui doit laisser ses meilleurs athlètes aller dans d'autres sports. On a souvent comparé Kylian Mbappé à un coureur de 100 mètres. Si ce gars-là, on l'avait pris au début, on l'avait formé à partir dans les starting blocks, peut-être qu'il serait champion olympique du 100 mètres. Je ne pense pas quand même. Mais voilà, si tes meilleurs talents vont vers l'athlète, peut-être que tu auras plus de médailles. C'est un sport qui n'a que 300 000 licenciés. C'est moins que le judo. Bon, ben voilà.
Et c'est un problème, ça, Renaud. Il y a... Et l'athlète n'est pas assez considéré en France et il n'y a pas assez de licenciés.
On peut toujours avoir mieux, on a toujours besoin d'avoir mieux, mais moi je crois qu'on est un pays quand même avec des clubs qui travaillent très bien, et il y a des grands talents dans les clubs. On a toujours eu, on a un vivier qui se repose sur les championnats de France cadets juniors, on a un athlétisme antillais qu'il faut bonifier, on a, non, moi je suis pas d'accord, je veux pas crier, je veux pas dire qu'on est le vilain petit canard des sports en France, ça veut pas dire qu'on peut pas se développer plus et faire mieux, mais en tout cas, il y a un vivier, il y a des clubs qui sont excellents, mais pour revenir à ta question Gilbert, je vois simplement qu'entre Londres et Rio, il y a eu 9 médailles quand le DTN s'appelait Gany Yalouz. Ok, aujourd'hui, en 2 Olympiades, Tokyo plus Paris, donc plus un Giro.
Non, c'est le nom du président.
Une Olympiade à la maison, on fait 2 médailles. Donc, tu vois ce que je veux dire? 9 médailles. Quand Yalouz était là, Yalouz, il est arrivé de la lutte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé quand même un esprit équipe de France que personne ne conteste. Aujourd'hui, il est même pas invité au Club France. Il y a un malaise. C'est-à-dire qu'il y a rien qui a été fait pour essayer d'utiliser l'héritage du boulot que cette personne-là avait fait. Et ça, c'est le président actuel qui est responsable de ce malaise.
Bon, voilà pour le bilan athlétisme. Tiens, on va aller voir Kevin Morand, parce que c'est aussi de l'athlé ce soir.
Oui, c'est un genre d'athlé.
Oui, bah, oui. C'est de l'athlé, c'est de l'athlé.
C'est de l'amateur, mais c'est de l'athlé.
Renaud, bon, il était pris par l'after chez nous, il aurait fait le marathon pour tous, hein. Il a déjà fait le marathon avec ses athlètes ce matin. Kevin Morand est à l'arrivée du marathon pour tous. Salut, Kevin.
Salut Gilbert, salut à tous. Là, ça arrive par vague. Maintenant, on a dépassé les 3 heures, hein, pour la plupart, ceux qui sont partis à 21h dans le premier sas. Il y avait 8 sas, hein, jusqu'à 22h10. On attend dans l'équipe RMC là, qui était sur ce marathon, on attend Benoît Boutron qui devrait être le premier. Il a passé les 40 km, il était sur la base de 3h21, donc il devrait plus tarder. Mais là, je suis avec Frédéric.
Mais ça envoie, Benoît, dis donc.
Bah oui, ça envoie, ça va être le premier arrivé, c'était le premier parti, donc c'est normal. Mais c'est aussi sans doute celui qui courait le plus vite. Je suis avec Frédéric qui, lui, est un amateur aussi de marathon. Alors, comment vous êtes senti là sur ces 42 km autour de Paris?
Bah, c'est magique, hein. Franchement, c'était
top. Désolé, on est avec Mbid et avec Stéphane Brun.
Joël, félicitations, champion olympique. Quelle a été ton expérience? C'est la première fois que tu jouais avec une sélection nationale. Comment t'as vécu cette expérience olympique?
Ah, c'était bien. On avait un bon groupe de gars. Et puis ça fait des semaines qu'on est ensemble. Donc c'était du grind. Mais je suis tellement fier d'avoir gagné cette médaille d'or.
Un mot sur la performance de Steph Curry en demi-finale, et ce soir il a été exceptionnel. Est-ce que t'as déjà vécu ça auprès d'un... Enfin, tu joues contre lui tout le temps, mais là, d'avoir avec toi dans ton équipe.
Big shots after big shots. Comme tu l'as dit, je joue toujours contre lui, mais c'est aussi bien d'être dans la même équipe avec lui. Ce genre de shoot qu'il a mis en demi-finale et puis en finale, c'était grave, mais... Ah, je suis très content.
Joël, tu sais que cette médaille d'or, tu aurais pu l'avoir pour la France, mon grand. Tu sais ça, Joël, hein? Félicitations à toi.
Ouais, mais on sait jamais. Pour moi, j'aime la France, j'aime le public français. Donc, c'était un choix difficile, mais ça va.
Ça t'amuse, les sifflets? Ça t'amuse?
Ça, ils ont, je crois pas que les gens, ils comprennent rien du tout. Parce que moi, j'aime ça. Parce que ça m'aide d'aller à mieux jouer. J'aime quand c'est vraiment négatif, les boues et tout ça là, donc ça va.
Bravo, félicitations.
Bah, bravo Stephen. Il y est arrivé, médaille d'or Stephen Brun. Il a eu Joël Embiid à la classe.
Il le voulait depuis longtemps, hein. T'as arraché Stephen, c'est bien.
Ouais, bon, t'as pas récupéré le passeport, mais tu l'as eu. Les joueurs français arrivent dans quelques secondes. Ouais, je sais pas si Kevin Morand est toujours avec nous.
Je suis avec Evan Fournier.
Ah, vas-y, Evan Fournier avec Stéphane Brun.
Evan Fournier, l'homme de Charenton, t'es chez toi ici. Félicitations, Evan. Alors, félicitations, j'imagine que t'es content, t'as une médaille d'argent. Est-ce qu'il y a cette déception? Parce que déception, ça veut dire que vous auriez pu le faire.
Ouais, bien sûr. Quand on revient à moins 3, à 3 minutes de la fin, on sent qu'on a le momentum et on fait pas les plays et eux, ils le font, quoi. Donc voilà, c'est forcément dur. Après, on tombe contre Team USA, quoi. Enfin, je veux dire, on a tout donné, en fait. Donc, c'est dur d'avoir des regrets, tu vois, quand vraiment tu donnes tout et tu es face à une concurrence qui est aussi forte. Mais c'est dur de terminer sur une défaite, quoi.
Fais-nous un peu le bilan de ce tournoi. Il est fou, en fait. Quand tu fais le storytelling, c'est complètement dingue. Les phases de poule, Mathieu qui met ce 3+1. S'il n'y a pas ce 3+1 contre le Japon, ça se trouve, on n'est même pas là. Tu n'as même pas ta médaille autour du cou. Ouais. Et puis, cette modification du 5 de départ, les rotations qui changent, l'état d'esprit qui change aussi. Raconte-nous, mec. Vous êtes passé partout, par tous les états.
Bah moi, ça fait 10 ans que je suis en équipe de France. Ma première compète, c'était en 2014. Et c'est ce que je disais au gars tout à l'heure en privé. C'est l'année où j'ai pris. Plus de plaisir avec le groupe. C'était un truc de dingue ce qui s'est passé. On avait une solidarité, une force, une puissance interne très forte que moi j'avais pas vécu avant. Il y a des années où on jouait mieux au basket, où on était plus fort, on tirait mieux de ça, mais là cette année c'était différent, le public nous portait, ça nous a donné des matchs assez fous. Et au final, on est médaillé d'argent. Voilà.
Et Gershon qui a postérisé les Browns.
Ouais, Gershon, il nous fait trois derniers matchs
de mutant,
de dingue, de dingue. Je suis trop content pour lui. Franchement, je suis trop content pour lui.
Evan, toi, c'est quoi ton avenir? Dis-nous l'avenir de l'équipe de France. C'est pas le moment, mais ton avenir en club, il y a quelque chose?
Je sais pas. Mon avenir basket tout court, je sais pas.
Tu vas pas arrêter le basket, quand même, mon grand.
Je sais pas.
Ah, d'accord.
Non, je sais pas. Franchement, tout est ouvert, ça va dépendre de ce qui se passe dans les prochaines semaines.
D'accord. En tout cas, félicitations, mec. Les émotions, elles ont été exceptionnelles. Bravo.
Merci
Evan. Merci beaucoup.
Evan Fournier avec Stephen. C'est un peu bizarre, là, la question que tu poses sur la suite de sa carrière.
Parce qu'il n'a pas de contrat, en fait, en NBA. Il a galéré, ça fait 2 ans qu'il ne joue pas à New York. Il a été transféré à Détroit dans une franchise moribonde pour finir l'année où il a joué 20 matchs. Là, il est en fin de contrat. Il a pas le club, en fait. Il est free agent. Il y avait des rumeurs comme quoi on le verrait bien de retour en Euroleague. Donc, c'est pour ça que je pose la question, pour savoir ce qu'il compte faire. Enfin, sa réponse me laisse un peu dubitatif. Après, il y a le trop plein d'émotions, la médaille d'argent. Donc, il faut qu'il ait le temps de se poser aussi.
Ouais, qu'il se pose et qu'il réfléchisse.
Ouais. Oui, exactement.
Ça va dépendre des opportunités qui se présentent à lui aussi.
Les émotions aussi.
Ça va dépendre des opportunités qui se présentent à lui après ces jeux, finalement.
Ouais.
Bon, sur Joel Embiid, tu l'as senti comment là, en dehors de tout ce qui t'a dit.
Tu sais que depuis le départ, j'essaye de l'avoir.
Oui.
Tu l'as eu, bravo.
Il calcule personne. Et là, je pense que maintenant qu'il a la médaille d'or autour du cou,
c'est bon. Il s'est relâché un peu.
Oui, il s'est relâché. C'est plus simple de faire des médias quand t'es champion olympique. Mais franchement, j'avais pas d'a priori sur ce garçon-là, mais il m'a fait plutôt bonne impression au micro. Alors toi, tu vas dire, il parle pas français, il mélange l'anglais et le français.
J'ai rien dit. Mais extraordinaire celui-là.
Mais je l'ai trouvé souriant, j'ai trouvé sympa. Puis sa réponse quand je lui dis, t'aurais pu être une médaille d'or, j'ai trouvé bien. Enfin, franchement, il m'a. Bah, je vais pas dire qu'il m'a régalé, mais bonne interview.
Bon, il a quand même fait des déclarations récemment en disant, moi, si j'avais pu jouer pour le Cameroun, je l'aurais fait. Je rappelle que le Cameroun était dans un tournoi de qualification olympique. Hein. Donc il aurait pu jouer pour le Cameroun.
Oui. Bah, après, sur cette histoire-là, il a quand même donné 254 réponses différentes. Jouer à l'Olympique. Donc je sais même pas si lui, il a quand même dit, peut-être, je vais jouer le Cameroun avec le Cameroun en 2028. Sauf que bon, grand, là, t'as une nationalité sportive avec les Américains.
Là, il est pas au courant de la règle, en fait.
Pas cadeau pour changer de nationalité maintenant.
Oui. Bon, c'est effectivement, en fait, voilà. Il connaît pas le règlement.
Oui, ouais, il est
un petit peu dans l'euphorie du moment.
Il fait ce qu'on lui dit de faire. Je vais l'envie. Il vient à Paris, il y a un tournoi de basket.
Il y va.
Très bien. Bon, à tout de suite pour d'autres réactions si tu en as. On était avec Kevin Morand, donc à l'arrivée du marathon pour tous. Kevin, toujours là.
Gilbert, j'ai quelqu'un pour toi, un certain Frédéric qui a longtemps travaillé avec toi. Alors, je vais lui passer le casque et vous allez pouvoir vous parler. Tenez, prenez le casque. Il vous écoute.
Gilbert, ouais. Comment vas-tu?
Oui, qui est-ce?
Frédéric Laville.
Oh, comment il va?
Ah, tu te souviens quand on a fait un 7 jours en Australie?
Bah évidemment,
avec une petite carte.
Nous sommes des vieux amis.
On veut tous les détails, Frédéric.
Fred connaît très bien Marion, j'imagine.
Je connais tout de la vie intime de Gilbert, mais comme on est à l'antenne, je vais garder un droit de réserve.
Bon, ton temps au marathon, là, raconte.
Ah non, mais là, je suis déçu. Gilbert, je suis déçu.
3:12.
Ah, pas mal.
Pas mal parce que tu sais que je sors d'un cancer. Non, tu le sais pas. Bon, bah, je te l'apprends. Je me suis fait opérer le 27 décembre. J'avais pas mis de dossard depuis 2 ans. Pratiquement sans prépa. C'est une dinguerie, ce truc. J'ai jamais couru dans une ambiance pareille. C'est un truc de fou. Voilà, j'aime Paris. Je me marie avec Paris. C'est incroyable. Ce que les spectateurs ont fait sur ce parcours, c'est eux les vainqueurs. Voilà, même si j'ai la médaille autour
bon,
du cou.
Bon, bah, toi aussi, alors. Voilà. Toi aussi, Fred. En tout cas, bravo et à très vite. Faut qu'on coupe alors, parce qu'on a Gershon Yabusele avec Stéphane Brun.
J'en peux plus, là.
Gershon Yabusele, médaillé d'argent. Ouais. Bravo, félicitations déjà. Merci, félicitations merci. Pour ton tournoi olympique. T'as entendu les MVP de 13 000 personnes. T'as été fantastique. Cette équipe de France a été fantastique. La finale a été belle. Merci. Malheureusement, il fallait faire un match parfait pour les battre. Et puis, Steph Curry, ce qu'a fait Steph Curry, on s'en rappellera. Je pense que c'est rentré dans l'histoire ce qu'a fait Steph Curry en finale.
Bien sûr. Bon, après, on s'est battu, même pendant le match. On est arrivé proche, on a fait quelques petites erreurs à chaque fois qu'on était proche à chaque fois, mais ça refait pas le match. On s'est battu comme des hommes. C'est ça qu'on va retenir. Notre deuxième partie, vraiment, quand on est arrivé à Paris, on a su montrer ce qu'on était capable de faire en équipe. On est revenu de loin, on s'est battu. Moi, je suis fier. Je suis fier de tout le monde, tous ceux qui ont fait partie de l'aventure, qui nous ont aidés. Je suis fier et reconnaissant parce que voilà, on s'est battu, on a, désolé de dire ça, mais on a posé nos couilles sur la table et voilà, on s'est battu, on a tout donné, même la finale, on était là, on a tout donné. Voilà, donc après, voilà, des grands joueurs comme Curry peuvent prendre feu comme ça et changer le cours du match, mais on n'a pas à rougir. Je disais à tout le monde de lever la tête parce que d'où on vient et tout ce qu'on a fait, ce qu'on a montré, on a respecté le maillot et ça, c'est important.
Gershon, il faut que tu nous dises un mot parce qu'il y a l'action du tournoi. T'as mis un énorme poster dunk sur LeBron James, il est tombé par terre.
Ouais.
Tu le vois arriver lui quand tu prends tes appuis, tu dis c'est LeBron, il faut que je le détruise.
Là, il n'y a pas le choix. C'est soit je dunk, soit il me contre. Mais l'option de faire une feinte ou de faire un layup, là, il n'y a pas d'option. Il m'a contré juste avant où je suis parti sur un layup et il a parlé. Là, j'avais l'occasion, je peux te dire que je lui ai dit quelques petits mots, je pense qu'il le sait aussi. Donc, l'action et la photo, là, je vais chercher la meilleure photo, je vais l'encadrer chez moi et je la mettrai, tu sais, à l'entrée. Comme ça, quand quelqu'un vient, il va se dire, ah putain.
Et de la tribune du poste commentateur, on a l'impression que, je ne vais pas dire qu'ils étaient insupportables de l'attitude, ouais. Mais ils parlaient beaucoup, LeBron, oui. KD, c'était le cas. Oui.
Beaucoup de trash talking. Ben, on le savait et on les a fait douter à un moment donné parce que malgré leur trash talking, on a eu la période où vraiment on a continué à enchaîner et je sais que. Ils ont douté, ils ont beaucoup douté, ça se voyait. Mais bon, voilà, on était proches. Mais en tout cas, on s'est battu. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas nous enlever.
En tout cas, vous nous avez régalé, tu merci. Nous as régalé. Profite merci. Bien de tes vacances.
Merci, merci.
Et rendez-vous l'année prochaine dans l'Euroleague ou NBA ?
Ah, ça, c'est pas moi qui décide, malheureusement. Hein. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là avec ça. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Hein. On
verra. Bravo. Repose-toi bien. Merci, Gershon. Voilà, les amis. On a fini.
Ah, il n'y a plus personne ?
Il n'y a plus personne. Tout le monde est passé.
Bon, bah bravo Stéphane,
merci.
T'as fait le métier.
Bravo Stéphane.
Merci Steve. Beaucoup.
Et bien, c'est pas fini parce que demain.
Et demain, il y a un autre rendez-vous. J'espère que les filles vont venger nos garçons. 15h30 sur RMC en direct avec le retour de Arnaud Valadon.
Très bien. Et cette fois, peut-être une médaille
ton
d'or.
Ton pronostic pour demain.
Mon pronostic, Steve. En fait, la problématique chez les filles, c'est que les filles sont. Il y a un plus grand écart entre Team USA filles avec les autres nations que Team USA garçons. Donc,
ça me paraît. Bon signe, là.
Les filles n'ont pas perdu un match au championnat olympique depuis une demi-finale 92. Je crois que ça fait 59 ou 60 matchs de suite gagnés en tournoi olympique. Donc moi ce que je souhaite c'est le même match qu'aujourd'hui en fait, que les filles tiennent jusqu'au bout et éventuellement sans un malentendu à la Jean-Claude Duss qu'on puisse passer. Voilà.
Juste tu nous parlais de trash talking là Yabusele, tu disais toi aussi que tu avais deux trois attitudes qui t'avaient un peu énervé. Et ils t'en ont parlé un peu les gars là quand tu les as croisés ou enfin je.
Non, il y a que Gershon.
Est-ce qu'on a la traduction du trash talking?
Non. Trash talking c'est.
On peut pas dire. On peut pas traduire.
Non. Gershon n'a pas vraiment dit les mots exacts, mais j'ai vu. Il y a une première faute dure sur LeBron James et il se plaint un peu. Kevin Durant qui va faire un tête contre tête à Rudy Gobert quand ils ont mis deux trois paniers. Kevin Durant, LeBron James. J'ai vu. Il y a des mots qui partent. Après, c'est le basket. Hein. C'est monnaie courante sur les terrains de basket, mais j'ai senti que c'est un signe aussi que les Ricains n'étaient pas forcément, je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas en confiance, mais ils n'y avaient pas la plus grande des sérénités non plus. Quand tu as cette attitude-là, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi non plus et que tu crains l'adversaire.
Merci Stephen, à demain pour les filles.
À demain, merci, bonne soirée à tous, ciao ciao.
Pendant ce temps-là, il y a encore du monde à Bercy, à l'heure où on parle, Pierre Dorian, toi qui es
en train de se vider là, ça y est, là, ça, il reste plus grand monde parce que toutes les stars sont parties. Je veux juste finir quand même par un énorme big up à Stephen Brun. Le mec a tellement de charisme qu'il arrête Joel Embiid, il arrête Gershon Yabusele. On a eu les deux personnages centraux de ce match, hormis Steph Curry, mais je crois qu'il n'est même pas passé devant lui. Et franchement,
il cherche son protège-dents là.
Ça mérite. Et alors Gershon Yabusele m'a régalé avec Stephen, mec hyper frais qu'on découvre. Alors on connaissait le joueur, mais on l'a jamais en interview. Ça me fait penser à tous les supporters de la chorale de Roanne qu'on dit se régaler. Ils vivent des moments difficiles avec la rétrogradation, mais Gershon Yabusele a mis la chorale tout en haut. Voilà.
On espère qu'il y aura encore des grands matchs à la Halle Vacheresse. Salut Pierre, bonne soirée, à demain.
Bonne soirée à tous.
Dans un instant, on va passer au volley et au reste de l'actu du jour, parce que le volley nous a régalé aujourd'hui. Nouvelle médaille d'or, le volley double champion olympique désormais, avec un match dingue face à la Pologne. La France a éclaté la Pologne, Marion, 3-7-0. Et donc, bravo. Et puis quand au marathon pour tous, on a laissé Kevin Morand, mais j'ai toujours mon petit
tracker.
Mon petit tracker.
Oui.
Ils sont bien. Hein. J'ai un Pierrick Ted à Versailles, tranquille. Et j'ai Fanny Cousin et Jean-Louis Tour qui vraisemblablement sont plutôt vers la descente, là, sans doute vers Meudon, ici les Moulineaux. Peut-être qu'ils nous écoutent d'ailleurs, on leur fait un petit coucou. Ils ont peut-être les écouteurs dans les oreilles. Ou alors ils profitent des petits oiseaux. Puisque finalement courir la nuit, c'est plutôt agréable. Il y a moins de bruit, c'est sympa. Les sensations sont différentes. Bref, essayez, vous verrez. Dans un instant, le volley sur RMC dans l'After JO.
RMC, l'After JO.
Gilbert Bribois.
Même quatrième balle de match sauvée par la France.
Il en reste une et c'est la bonne. Alors je dis tous les trois que c'est la bonne. On est des millions de Français à penser que c'est la bonne. Balle de match.
Allez, faut pas trembler là, faut pas trembler. Cinquième balle de match, cinquième balle de match pour l'équipe de France. Wilfred Oléon au service qui met le feu. Wilfred Oléon, allez, pourquoi pas un échec. Wilfred Oléon. C'est d'or ! C'est d'or ! Champion olympique ! Champion olympique ! Le doublé historique pour l'équipe de France, messieurs dames, sur ce service d'or ! Les Bleus qui sautent ! Les Bleus qui sont champions olympiques ! Double médaillé d'or, Tokyo 2020 ! Et Paris, ici à la maison ! L'or pour l'équipe de France de volley ! Magnifique ! Magnifique équipe de France !
Et comme convenu, nous sommes avec les champions olympiques du volley à Marion. Yannick Bazin déjà est avec nous, il n'est pas champion olympique.
Il est loin de ça, mais
il est notre membre de la Dream Team. Yannick, présente-nous les trois.
Ils ont rigolé, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça va chambrer, mais ils ont ri.
Faut que je les présente.
Ah bah bien sûr, et surtout tu fais le pédigré, tu nous expliques ce qu'ils ont apporté, la finale qu'ils ont fait, bon.
Allez, je commence par le plus jeune, je pense Barthélémy Chinignézé, si je le prononce bien, même si je suis très mauvais dans la... Ouais, ok, super. Donc poste de central, très jeune joueur, talentueux, j'ai pas grand chose à dire de plus.
Bonne finale, bon jeu.
Écoute, il est monté en régime comme pas mal de mecs pendant la compétition. Au début c'était un peu compliqué pour lui.
C'est bien dit.
Non, il manquait un peu de rythme et au fur et à mesure de la compétition il est monté en puissance et aujourd'hui il a été monstrueux. Derrière, juste à côté, on a Yacine Louati.
Bonjour
Yacine Louati, réceptionneur attaquant. Il fait partie de ces quatre réceptionneurs attaquants de l'équipe de France, même peut-être cinq, qui tournent beaucoup. C'est un groupe, hein, à chaque fois, hein, je le répète souvent, mais c'est un groupe. À chaque fois, ils ont tous pris part, à chaque fois qu'il y a eu une entrée, à chaque fois, quelqu'un a apporté quelque chose à cette équipe. Et c'est aussi la grande force de cette équipe, c'est d'avoir aussi un banc vraiment impressionnant. Et derrière, celui que je présente plus, c'est Benjamin Tonutti, donc le capitaine de cette équipe. On ne va pas parler de son âge. peut-être le plus petit, non, en taille de l'équipe, en taille.
Le plus petit.
Donc passeur, meneur de jeu de cette équipe, avec des doigts de fée, quelque chose que moi, je n'avais pas du tout. pour le coup, beaucoup plus délicat que moi. Mais en tout cas, voilà, il a tout gagné. On en parlait tout à l'heure, juste après le match. Il a tout gagné. Il lui manque seulement les championnats du monde à remporter. Il aura fait le tour. La boucle sera bouclée quand il remportera les championnats du monde, en espérant qu'il aille jusqu'à ses prochains. Pardon,
merci pour cette présentation. Yannick, tu as été parfait. Est-ce que vous avez vécu, les gars, Thierry Yacine en premier, votre plus belle quinzaine de volées de votre vie ?
Absolument.
et gagner à la maison, on n'y avait pas goûté encore, en tout cas moi personnellement, et c'est formidable. On a une ambiance qui est montée, une ambiance de feu, ce qui était peut-être même une pression en fait au début, parce qu'on défendait notre titre à domicile, et puis on voyait l'ampleur des jeux autour, tout le monde regardait ça, et ça s'est transformé. Et depuis le match contre l'Allemagne, en fait, on est un peu sur une vague qui continue, et on pourrait encore jouer des matchs, je pense que je serais même pas inquiet. On joue admirablement bien en ce moment, et voilà, bravo, je suis trop fier de l'équipe.
Parce que là, en finale, Barthélémy, on a l'impression que vous les avez désossés, hein, les gars.
C'est,
non, mais...
c'est pas une impression, c'est une réalité, je pense.
C'est une réalité.
Mais
En demi-finale aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis ce match contre l'Allemagne, où ils ont été menés 18-15 au troisième set, où ils étaient très très mal embarqués.
9-7 consécutifs.
Exactement, ouais. 9-7 consécutifs. Et là, pour le coup, on peut le dire, ils ont roulé sur tout le monde.
Et moi, justement, j'aimerais revenir sur ce changement. Parce que le changement, il est incroyable. Vous passez d'une situation où vous êtes presque proche d'être sorti en quart de finale à écraser tout le monde. Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que vous êtes parlé d'une manière différente ? Est-ce que vous avez pris conscience finalement éventuellement vous pourriez prendre la porte ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ouais, en fait, jouer l'Allemagne en fait en quart, c'était aussi un match, on va dire, pas on s'y attendait pas, mais c'est une équipe qui n'était pas favorite sur le papier. Du coup, quand on se retrouve contre une équipe comme ça, nous, on est champion olympique, on joue à la maison. Et c'est des matchs qui sont pas faciles à gérer. Mais bon, on a réussi à remonter de ce 2-0. Et après, en fait, on joue l'Italie à Pologne. C'est les, sans nous,
c'est les grosses équipes.
C'est les grosses équipes, mais sans nous, c'est les deux meilleures équipes au monde. Parce que maintenant, on est numéro un, je pense, on peut le dire. Et ben après, c'est parti, quoi. On a enchaîné, ouais, 9-7 consécutifs, et c'est assez incroyable parce que. On a déjà fait des championnats d'Europe ou championnats du monde ou VNL où contre des équipes moins fortes, on leur met pas deux fois 3-0. Et là, les mecs, ils ont à peine dépassé 20 et c'est très bien passé pour nous.
Ça donne l'impression que vous avez pris une sorte d'ascendant psychologique sur les adversaires. Les Polonais, tu voyais dans leurs yeux, ils se disaient, mais en fait, on n'y arrive pas, quoi, Sam, Benjamin.
Ouais, écoute, pour les Polonais, déjà, je pense que moi qui joue en Pologne depuis 10 ans, en fait, ils ont ce traumatisme un peu de se faire sortir en quart de finale depuis 5 éditions, je crois, au JO. Et je suis un peu le truc. Et du coup, il y a eu tellement un soulagement pour eux de passer le quart de finale. Derrière, de passer la demi-finale, j'ai l'impression que presque pour eux, c'était leur JO, c'était réussi. Et peut-être qu'on avait cet ascendant. Et après, il y a le public aussi. Il y a tout ça qui fait que... qu'en plus on arrive en pleine confiance avec un gros match contre l'Italie et ouais on fait deux matchs quasiment parfaits.
Moi ce que je trouve dingue avec cette équipe c'est que peu importe quelle équipe elle affronte, elle se met toujours au niveau juste au-dessus de l'adversaire. Donc on l'a vu contre l'Allemagne qui était entre guillemets le quart de finale le plus abordable contre une équipe où on pouvait pas imaginer les voir à cet endroit-là de la compétition. Et on s'est dit ouais, ça va être dur contre l'Italie après ce match contre l'Allemagne. Et puis paf, contre l'Italie, grosse cylindrée, ils arrivent toujours à élever leur niveau à chaque fois, peu importe l'équipe en face. Et ça, je trouve ça incroyable parce qu'ils ont réussi à tenir le coup à chaque fois dans les sets jusqu'à 20. On l'a répété pendant le match, essayer toujours à s'accrocher, même si on est distancé sur 2-3 points, ils s'accrochent petit à petit, ça grappille. Et surtout, ils paniquent pas. C'est-à-dire que même quand ils sont menés, tranquille les gars, on va revenir point par point, on va le faire, on va réussir. Et ça, je trouve ça fort en termes de confiance et de lucidité, je trouve ça incroyable.
Moi, j'aimerais revenir finalement sur la défense du titre. Parce que c'est une chose, être champion olympique, c'est déjà extrêmement dur, mais de devoir défendre son titre à la maison, alors ça peut provoquer des émotions exceptionnelles comme vous les avez vécues, mais ça peut aussi provoquer une espèce de dose de stress supplémentaire en se disant, il ne faut vraiment pas qu'on échoue cette fois-ci, il faut qu'on gagne chez nous à la maison, devant notre public, devant notre famille. Est-ce que finalement, la victoire que vous avez obtenue au mois de juin dans la Ligue mondiale, ça a été le train qui vous a lancé pour percuter à pleine vitesse à tous les adversaires que vous avez eus ?
Ah, c'est à moi ?
Ouais. Oui, non, tu fais à l'autre, mais c'est pour toi, vas-y.
Non, parce que moi, j'étais pas là pendant la VNL, j'ai pas tout fait vu que j'étais blessé, mais...
T'étais blessé au genou.
Ouais, j'étais blessé au genou, mais je pense que ouais, ça a donné un boost, et en fait, on avait aussi ce truc-là de... Ouais, l'équipe de France de volley, elle joue bien en début d'été sur la première compétition, et sur la deuxième, elle n'arrive jamais à retrouver son niveau de jeu, ou je sais pas quoi.
Vous avez démontré que non.
Voilà, en fait, on a fermé quelques bouches. Et je pense que c'est en fait le fait d'avoir gagné aussi la VNL. On était en fait directement après, on n'a pas fait la fête. Et c'est vrai parce que j'y étais, on n'a pas fait la fête, rien. Et on s'est direct concentré sur le vrai objectif de cet été, qui était les JO. Et du coup, je pense que ça nous a mis dans des super conditions en fait pour aborder la préparation des Jeux Olympiques. Et voilà, après, on a vu. On a vu que ça s'est super bien passé. On avait vraiment le bon mindset en fait pour approcher les jeux.
Quand sur la balle de match, la dernière balle de match, vous voyez le service de Léon qui sort. Là, en une fraction de seconde, il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là, pour tous les trois?
Si je peux commencer, ça y est.
Vous
c'est
l'avez.
Bon, on l'a. Genre on a fait l'exploit. Parce que déjà il y a 3 ans, c'était improbable, mais là on l'a fait 2 fois de suite à la maison, les Jeux de Paris. Enfin, je pense que même dans nos rêves les plus fous, on s'imaginait pas ça. Et là, on s'est dit c'est bon, ça y est. On est double champion olympique.
C'est que là, le cerveau va très vite, en fait. De 24-19 à 24-23, on a tellement tous réfléchi. Je pense qu'il s'est passé une espèce d'éternité entre les 4 points. Et quand c'est sorti, en fait, c'était dur de faire le side-out à ce moment-là. Sur le service, il était en train d'envoyer des bombes. Et on connaît le joueur. C'est voilà, une star du sport. Et il nous a facilité la tâche.
Benjamin, vous êtes champion olympique avec un autre coach. Ça ne marche pas toujours, ce genre d'opération-là. Il vous a apporté un truc en plus, le coach italien, là, ou ça s'est fait naturellement? Enfin, racontez un peu.
Je pense qu'au départ, ça s'est fait naturellement. Je pense que l'été 2022, quand il est arrivé, ça s'est fait naturellement parce qu'on était sur, sur le mood un peu de Tokyo. Et je pense que c'est allé vraiment en fluidité, on va dire, là-dedans. Et on a été très, très bons sur la VNL qu'on a gagnée. Après, sur le mondial, on perd 3-2 contre les futurs champions du monde, pardon.
Ça, c'est bon, ça.
Champions du monde, les Italiens. Et l'été 2023, on n'a pas bien joué. On n'a pas fait un bon été. Et le fait que Gianjo, que Andrea Gianni, eh ben, il soit à 100% avec l'équipe nationale cette année, ça a été très, très bénéfique pour l'équipe de France parce qu'il a pu venir dans tous les clubs. Pour voir tous les joueurs, pour voir un petit peu, justement, faire un débrief de l'été dernier.
Il n'est pas venu me voir, moi.
Excuse-moi.
Pas venu me voir.
Mais il est venu en Pologne, il est venu en Italie, il est venu en Turquie pour parler avec les gars, pour justement échanger sur cette identité de jeu, parce qu'on l'avait perdu un petit peu. Et cet été, on a retrouvé cette identité de jeu dès le début de l'été. Et je pense que ça a été très, très bénéfique, justement, d'échanger avec lui et de préparer cet été 2024 qui a été très important.
J'ai une dernière question, moi. Est-ce que vous pensez que votre finale d'aujourd'hui en France va enfin faire basculer les choses pour votre sport? C'est-à-dire que vous jouez quasiment tous à l'étranger. Le championnat de France de volley, je suis désolé, mais en fait, il n'existe pas. Il existe très peu dans les médias. Non, mais c'est la vérité. Ça veut peut-être un peu mal à entendre, mais enfin, peut-être que là, il y a un truc, ça y est, une bascule sur laquelle capitaliser. Je te pose aussi la question à toi.
Il faudrait qu'on ait une fédération qui.
On va lâcher les dossiers sur les fédérations. Mais voilà, on commence enfin cette interview.
Non, mais je dis, il faut que, justement, depuis Tokyo. Tokyo, ils n'ont pas capitalisé dessus. On a fait des événements, je me souviens, pour avoir commenté les JO aussi de Tokyo, on attendait un gros événement après leur victoire pour célébrer leur fête. Et ils ont fait un match à Belfort, je crois. Dites-moi, les gars, si je me trompe, mais devant 3000 personnes. Désolé, mais ça ne fait pas rêver quand même. Putain, sans déconner. Pardon, excusez-moi. Non, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Cette équipe, elle mérite beaucoup plus.
Moi, je suis là depuis longtemps. Ça fait depuis 2010 que je suis là avec l'équipe de France. Et c'est vrai que souvent, on disait c'est dur de parler du volley parce que vous ne gagnez pas, etc. Et depuis 2015, il y a eu quand même pas mal de victoires. Et du coup, forcément, nous. Enfin. On adore, personnellement, on joue à l'étranger, etc. Parce qu'on joue dans des clubs pour gagner des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions, etc.
Oui, et puis gagner votre vie.
Exactement aussi. Oui. Mais on rêverait tous de jouer en France. Mais forcément, on a envie que ça avance, etc. Nous, on ne peut pas faire plus. Je veux dire,
mais surtout, vous êtes seulement la 3e équipe dans l'histoire de tous les jeux à avoir fait le doublé. Il y a eu l'URSS dans les années de la guerre froide, les États-Unis, donc c'est absolument exceptionnel ce que vous avez réalisé et j'espère vraiment que ça va prendre en France aussi.
J'espère. J'ai la chance de jouer contre un club en français en Ligue des Champions cette année. J'espère que la salle sera pleine et que ce sera une belle fête, mais bien sûr qu'on a tous envie de jouer en France parce qu'on kiffe, jouer avec l'équipe de France en France parce que on voit que l'engouement il est incroyable quand on vient que ce soit à Orléans, à Montpellier, à Paris, n'importe où, et ben on remplit les salles donc nous on kiffe.
Bravo les gars, et on souhaite que le volet franchisse un palier parce que c'est hyper spectaculaire et le public a adoré ici.
Bon, retournez pas trop le Club France ce soir, s'il vous plaît, soyez sages.
Non, les gars, je compte sur vous.
On
a quand même un rang à tenir. Foutez-moi le bordel. Merci à tous.
Voilà, et pendant qu'on était avec les volleyeurs, d'autres volleyeurs étaient sur la scène du Club France. Ils ont commencé leur soirée.
Ils ont bien mis l'ambiance. Ils continuent d'ailleurs, de façon,
on va dire, sérieuse. Voilà, c'est en cours.
Sans ambiance sur Maître Gims, c'est bon esprit, Gilbert.
C'est en cours.
Oui.
Oui, on parlait des volleyeurs qui jouent à l'étranger. En fait, dans l'équipe de France, là, présente aux Jeux Olympiques, ils jouent tous à l'étranger. En Pologne pour la plupart, en Italie, enfin en Pologne et Italie, c'est voilà, les deux principales nations concernées. Donc,
c'est un véritable souci, c'est un véritable enjeu, et tu as raison de soulever la question parce que c'est un petit peu comme dans le foot si on fait une extrapolation. On est en train aussi dans le foot d'avoir beaucoup de mal à garder nos meilleurs joueurs, et dans le volley, c'est encore pire, bien évidemment, c'est passé à un degré au-dessus, mais il faut absolument que le championnat français deviennent plus cotés, soient plus élevés pour pouvoir garder nos talents en France.
Tiens, petite info basket en plus, Anthony Reich a rencontré Rudy Gobert, peut-être sa dernière, qui sait, dit-il, avec l'équipe de France, s'entend. Donc pas de confirmation officielle, mais Rudy Gobert réfléchit à arrêter l'équipe de France, à voir. Alors, je reprends le décompte des médailles, parce que tout à l'heure, on a parlé basket longuement, on a parlé volley, on a parlé hand également, on a parlé athlée, Siriana Samba-Maiella en argent au 100 mètres haies, donc le basket masculin en argent, le volley masculin en or, le handball féminin en argent. Rappelons qu'il y a eu deux autres médailles aujourd'hui, celle d'Althea Lorrain ce soir au taekwondo, c'est la première médaille d'or de l'histoire du taekwondo français. Pascal Gentil n'était pas passé loin, rappelez-vous, à Sydney, à Athènes, Gladys Epang également aurait pu gagner l'or, mais voilà, la première médaille d'or est pour Althea Lorrain qui sera sans doute avec nous demain ici au Club France. Et puis autre médaille d'argent au breaking, pour B-Boy Danny Dan. Il était en finale face à un Canadien, il a perdu, médaille d'argent donc pour Danny Dan. T'en as pensé quoi du breaking, Marion?
On avait cette discussion au niveau des nouvelles disciplines apportées pour les JO de Paris, ça pouvait nous apporter des médailles supplémentaires. On a eu deux au surf, et là au niveau du breaking, donc je pense que cette troisième médaille a un petit peu sauvé les nouvelles disciplines apportées. On voit que sur les Jeux de Los Angeles, ils sont en train de mettre des disciplines où les Américains sont déjà vraiment très forts. Alors, je ne sais pas s'ils en ont vraiment besoin, parce qu'au vu déjà le nombre total de médailles qu'ils ont, je ne suis pas sûre qu'ils aient besoin d'aller vraiment en gagner d'autres, mais c'est intéressant, cette nouvelle discipline. Alors, je regardais un petit peu sur les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Il y en a pour qui on trouvait que ce n'était pas vraiment une discipline olympique. D'autres, ça a plutôt plu.
Ce sera plus à Los Angeles.
C'était un parti pris, Tony Estanguet, bon.
Ouais, et puis je rappelle
et malheureusement une big girl qui a été beaucoup chahutée sur les réseaux sociaux, une Australienne, où on s'est beaucoup moqué d'elle sur sa chorégraphie. Bon, c'est vrai que ce genre de message, on a quand même toujours du mal avec ces messages un petit peu haineux, on s'acharne sur quelqu'un. Ça, par contre, c'était pas top.
Alors, au tableau des médailles, précisons quand même, on fera le point demain, on aura l'occasion toute la soirée demain là, pour le dernier soir des Jeux de tirer les bilans.
Ce soir, c'est
la Chine qui est en tête, devant les Américains, parce que les Chinois ont une médaille d'or de plus que les États-Unis, 39 contre 38, la France est 5e.
Le total des États-Unis à 122 médailles, c'est quand même la folie, Gilbert.
Ouais, et la France en est à 62, donc, et 63 demain au moins avec le basket féminin. Mais il y a encore des chances demain, notamment avec le pentathlon moderne.
Mais l'Australie fait encore de gros JO, Troisième.
Oui, je rappelle juste quand même sur ce classement, la Russie n'est pas là. Ça permet à tout le monde
de
grappiller des places et les médailles que les Russes auraient pu prendre, sans doute aux alentours de 70, se ventilent un peu pour tout le monde. Dans un instant, le cyclisme sur piste avec Benjamin Thomas qui a sauvé le bilan français avec sa médaille d'or à l'Omnium. A tout de suite dans l'After JO.
RMC, l'After JO.
Gilles Darbribois.
Il ne lui reste plus qu'un demi-tour, mais il peut lever les bras. Le premier champion olympique français sur la piste depuis Sydney en 2000 s'appelle Benjamin Thomas, champion olympique de l'Omnium. En termes d'une journée complètement dingue pour le Tarnais, qui conquiert sa première médaille d'or à seulement 28 ans. Lui qui dispute ses deuxièmes Jeux olympiques. Quelle victoire de Benjamin Thomas! C'est fabuleux ce qu'il a fait aujourd'hui, Cyril.
Cyclisme sur piste, comme prévu, Marion, on accueille notre médaillé d'or.
Notre champion.
Oui, l'homme qui a sauvé le cyclisme sur piste, on peut le dire comme ça, Benjamin Thomas. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Alors, une médaille d'or il y a deux jours. Aujourd'hui, une course un peu plus compliquée, mais enfin, c'est normal parce que t'es arrivé blessé, en fait, aujourd'hui.
Ouais, j'avais des stigmates de ma chute un peu. On a essayé de soigner ça au mieux et malheureusement, avec l'intensité de la course aujourd'hui à l'américaine, j'ai souffert notamment un peu au niveau du dos et ça nous a un peu dégradé notre performance. On n'a pas pu. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu m'exprimer à mon niveau et forcément, c'est au JO, ça pardonne pas sur une course aussi difficile.
Ouais, donc c'était à Paris d'y aller, en fait, finalement.
Oui, après, n'a pas la boule de cristal. Si j'avais su ce matin que ça allait pas, voilà, on aurait fait autrement. Mais voilà, maintenant on passe à autre chose. Je vais savourer aussi cette médaille acquise sur l'Omnium.
Alors l'Omnium, t'as vu hyper ému. Ouais. Comme si c'était une sorte d'aboutissement pour toi sur la piste.
Premier champion olympique depuis 24 ans, c'est un exploit considérable.
Bah en plus, il y avait Florian qui était là. C'était un peu.
Sur le saut, ouais.
Après le podium, on s'est embrassé et c'était un peu un passage de témoin. Et c'est notre chef de délégation. Pour nous, c'est l'exemple. Enfin, moi, j'ai grandi avec les exploits de l'équipe de France. Et c'est vraiment un honneur de lui succéder. Et je me rends pas encore compte de ce qui s'est passé.
Alors Benjamin, tu n'es pas qu'un cycliste sur piste, tu es aussi un cycliste sur roue. Tu as d'ailleurs remporté une étape du Giro cette année. C'est quand même assez rare de voir un cycliste comme ça avoir les capacités de jouer sur les deux disciplines. Comment se fait la transition pour toi dans la préparation? Est-ce que tu fais sur la route? Tu as aussi fait le Tour de France auparavant. Et là, un cyclisme sur piste.
Oui, c'est beaucoup de travail, d'organisation. La Fédération Française de Cyclisme m'a toujours permis depuis 10 ans de m'exprimer au plus haut niveau mondial sur la piste, et en parallèle avec mon équipe, c'est de la coordination. Donc là, on avait mis les JO comme objectif numéro un. Le Tour d'Italie devait servir notamment de préparation et j'ai pu décrocher une victoire d'étape, donc c'était vraiment super pour la confiance. Et après, c'est sûr qu'au niveau préparation, je fais beaucoup de sacrifices pour ma carrière sur route, mais bon, des résultats comme il y a deux jours, ça vaut le coup et ça repaye tous ces sacrifices.
Et quand tu retournes sur la route, il y a des gars qui te posent des questions, qui te disent alors c'est comment, moi ça me tend très bien, enfin, parce qu'on a l'impression que c'est deux univers totalement séparés.
Ah oui, c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Si on n'a jamais fait de piste, c'est compliqué. Mais voilà, on est quelques cyclistes à faire les deux disciplines au plus haut niveau, en courant également au World Tour sur la route. Et voilà, on crée des affinités et c'est sûr que ça fascine des fois les autres routiers. Ils disent mais comment tu fais pour passer tourner à 60 à l'heure à monter d'école, quoi.
Ouais. Tu pourrais faire du VTT aussi, non?
Du cross, du VTT très cross.
Non, mais il y a le grappeur anglais, le jeu de Pitcock.
Pitcock, c'est vrai.
Et le VTT,
alors, le sprinter français. Tu es un petit peu, on va dire, dans le cyclisme sur piste, l'arbre qui cache la forêt, parce que tu as remporté cette médaille d'or, mais derrière, il y a eu de gros échecs, en particulier dans le sprint. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce qu'il y a eu des contre-performances finalement individuelles, ou il y a des raisons un petit peu plus profondes?
Je pense que les jeux ont été longs à arriver. On nous en parle depuis très très longtemps. Il y avait aussi une sorte de pression. Heureusement, Pour nous, le cyclisme, ça a plutôt bien démarré avec les titres de Pauline, le triplé en BMX, la route, la médaille de Victor. Il y avait une vraie dynamique. Après, voilà, les jeux, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et on a une vraie hausse du niveau en sprint. Il y a des nations qui émergent, notamment en individuel. On a des coureurs qui... Des pays asiatiques ou d'Océanie qui n'étaient pas forcément à ce niveau-là il y a 10-15 ans. Et du coup, ça densifie et il faut aussi faire des performances exceptionnelles au JO. Mais après, voilà, j'ai confiance dans le groupe. Et moi, je me suis construit sur un échec, sur celui de Tokyo, vraiment pour arriver ici serein. Et ça va être dur à digérer pour eux. Je sais par quoi ils vont passer, mais je leur souhaite de derrière rebondir et ils vont aller chercher quelque chose encore mieux.
Toi, du coup, c'est quoi maintenant ton avenir? C'est de rester sur la piste encore, de voir Los Angeles, ou de faire plutôt de la route?
Je vais prendre un peu année par année. L'an prochain, je souhaite plus me dédier à la route. et la, plus me servir de la piste, la garder pour parce que j'ai une complémentarité en fait entre les deux. J'arrive à m'exprimer à mon meilleur niveau sur la route également quand je suis passé par la piste. Notamment cette année au Giro, deux semaines avant, j'étais au Canada à faire une Coupe du Monde sur la piste et après j'ai réussi à remporter cette étape. Donc pour moi c'est un équilibre à avoir. Je pense que je peux pas abandonner forcément l'un ou l'autre. Et Los Angeles c'est encore loin. Et on verra, mais je souhaite garder un pied dans les vélodromes parce que bah, j'aime ça d'abord et ça sert dans mon équilibre aussi en tant qu'athlète et je serais bête de me priver de ça et au final de régresser.
Alors Benjamin, il y a toujours la partie d'avoir les Jeux Olympiques à la maison qui peuvent créer une pression supplémentaire, mais il y a aussi le bonheur absolu de gagner devant son public. Et il y a eu franchement une ambiance au Vélodrome à Saint-Quentin, comme d'ailleurs dans tous les sites olympiques, hein, mais c'était absolument la folie. Donc quand tu as passé la ligne premier, que tu savais que tu allais gagner la médaille d'or, de le faire chez toi, tu as eu quoi comme sensation là, sur les quelques secondes qui ont suivi où tu t'es dit ça y est, je l'ai gagné?
C'était vraiment les 2-3 derniers tours, parce qu'en fait on était dans une petite échappée, donc j'étais avec le coureur qui était le portugais qui était juste derrière moi au classement. Je savais qu'en terminant juste avec lui, j'avais assez de points d'avance. Donc en fait, je savais à 2-3 tours que j'avais déjà gagné. Et là, c'est un sentiment de plénitude. J'avais les frissons sur le vélo et le vélodrome aussi le savait. Et c'était.
T'as revu toutes tes années de travail là qui ont défilé devant toi ou c'était tu voyais quoi comme image?
J'étais submergé vraiment. Une fois passé la ligne, j'ai été submergé. C'était une explosion. Il y avait mes proches. Sur la piste, on a la chance de pouvoir s'arrêter à la balustrade et de voir tout de suite le public et d'aller au contact du public. J'ai pu profiter de ça avec mes parents, avec mon frère. C'était un...
Mieux qu'une étape du Tour d'Italie?
Ah oui, 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 non, c'est pas...
Est-ce que c'est mieux qu'une étape du Tour de France?
Oui, je pense. C'est les Jeux, c'est le Graal. On dit le Tour, c'est le Tour chez les cyclistes, mais les Jeux, c'est les Jeux aussi.
Merci Benjamin, merci
à vous.
Merci Benjamin et profite bien surtout de ton succès.
Merci. Voilà pour Benjamin Thomas qui était avec nous. Et Marion, c'est fini pour ce soir.
Mais
souhaitons
oui,
bon marathon à tous les coureurs du Marathon pour tous qui écoutent RMC en ce moment et je ne doute pas qu'ils sont des milliers. Et demain évidemment, l'After JO reprend avec la dernière journée des Jeux. Faut en profiter, c'est la dernière.
T'es déjà fini?
Exactement.
On veut que ça s'arrête jamais, Gilbert.
Ah oui, faut préparer la dépression post-olympique lundi
ça,
matin.
C'est clair. Bah après, on a les Jeux paralympiques qui vont arriver.
C'est
mais
vrai.
Oui, comment on va suivre?
Allez, bonne nuit à tous, à demain soir.
Au revoir.
RMC, l'After JO.